bienvenue, c'est la nouvelle année, nous sommes en 2011, bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction en 2011, ça continue. Et nous sommes toujours dans le classement des meilleurs podcasts signé iTunes. Et pour ça, eh bien, nous vous en remercions. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez festoyé, bombancé et compagnie. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau. Et pour cela, ils étaient là en 2010, ils sont encore là en 2011. Thierry Falcoz, rédacteur en chef de No Life. Ça va, Thierry ?
Salut tout le monde, ça va très bien, ouais.
T'as passé de bonnes fêtes ?
Excellente.
Tout s'est
très,
bien passé.
Très reposante, donc c'était agréable.
Parfait, génial. Et de l'autre côté, nous avons... Régal, éminente grise de Science Critique.
Avec
comment
son
ça va
teneur de micro, donc parfait.
Tout se passe bien ?
Impeccable.
De bonnes fêtes ?
De bonnes fêtes et un bon début d'année.
Science Critique va bien ?
Impeccable.
Nickel.
On va en reparler.
Exactement. Allez, on va partir dans ce podcast 167, dédié cette fois-ci aux perspectives de l'année 2011. Et vous le voyez, si vous avez la vidéo, si vous êtes premium, je suis escorté de Julo et de Raon. Ça va les gars ?
Très
ça
bien,
va super
merci.
Bien.
Vous avez passé aussi de bonnes fêtes ?
Oh là là.
Moi, j'ai passé de mauvaises fêtes.
Histoire
de foutre un blanc. Et ben non, pas du tout. C'était super, c'était génial. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux, des beaux jeux vidéo et surtout que vous avez pu avoir le temps de finir pas mal de jeux, ce qui est le temps. C'est une denrée la plus rare.
Ah oui, puis là, ça va repartir très fort.
Ah bah alors, très fort. Hein. Nous avons un listing assez incroyable. Plus de 50 jeux dont lesquels nous allons parler. Alors, pas de tous hein, et pas tous en détail. Nous allons parler aussi des événements majeurs qui vont agiter et faire bouiller.
Oui.
Bouillir, voilà, l'année 2011. Comme, et c'est d'ailleurs avec ça que nous allons commencer, eh bien, le premier véritable événement, il aura lieu en mars, dans 3 mois maintenant, on y est presque. La Nintendo 3DS qui sort chez nous, messieurs. On en avait parlé un petit peu fin 2010, hein, on avait dit à quel point ça nous excitait un petit peu cette 3D relief sans lunettes. Aujourd'hui, on va bientôt, a priori, à une conférence Nintendo qui va avoir lieu à la fin du mois de janvier. On devrait apprendre le prix définitif, hein, aux alentours de 250€. Une date de sortie définitive pour l'Europe aussi, a priori début mars. Et puis le line-up de lancement.
Surtout ça, le line-up de lancement.
Qu'est-ce que t'attends, toi, Thierry ?
Mario Kart.
Mario Kart ?
Ah, je suis un peu old school là-dessus. Mario Kart en 3D, je pense que ça peut carrément le faire.
Ouais.
Et puis peut-être un nouveau titre de Miyamoto, une petite surprise. Pourquoi pas un petit Mario 128, tu vois, un truc comme ça. Un petit Pikmin, ce serait carrément top. Vraiment. Ah, ce serait vraiment bien ça aussi.
Ce serait pas mal s'immerger comme ça un petit peu dans l'herbe haute et découvrir nos amis du Pikmin. De ton côté, Ragal ?
En quoi ? En termes d'attente, en termes
de ce que tu veux.
C'est non, moi je suis curieux vraiment de voir. Moi, j'y crois à cette machine. Maintenant, je suis curieux de voir à quel point elle va cartonner au début. Mm-hmm. C'est ça la question. On connaît pas encore le prix. Donc voilà, est-ce que ça va être 250, 300, 200 ? C'est quand même un prix qui est assez proche, qui est pas le prix habituel, on va dire, des consoles portables
de Nintendo.
Nintendo. Et donc effectivement, c'est pas cher pour la 3D, donc il y a pas d'acquisition en plus de lunettes ou d'objets en plus. Mmh. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, de voir à quel point le départ va être fort ou pas. Mmh. Parce que je suis persuadé que en fin d'année, je pense que ça va être très viral en fait comme expérience. On te parle 3D. Tu l'as vu au cinéma, etc. Mais quand tu y joues, que tu le vois sans lunettes, mmh, vraiment et directement, je pense qu'il va y avoir une viralité assez importante. Mais combien de temps elle va prendre avant de... Voilà, combien de temps ça va prendre avant de décoller, quoi.
Ouais. En tout cas, on a pu discuter un petit peu avec les gens de Nintendo, a priori, leur optique de communication. Puisque bien évidemment, montrer de la 3D relief à la télévision via des pubs, c'est un peu compliqué. En revanche, ils vont avoir une énorme campagne de mettre des desks, enfin des présentoirs de 3DS dans toutes les boutiques spécialisées et autres.
On aura peut-être des hôtesses partout dans Paris pour le lancement.
Ça serait sympa.
À savoir, comme à l'E3.
Ça serait assez sympathique, Thierry.
Il y a un truc qu'on parle beaucoup sur la 3DS de 3D, mais il ne faut pas oublier non plus que la machine est plus puissante qu'une DS normale. Mmh. Et donc du coup, ça pourra peut-être nous offrir des jeux qui visuellement vont passer un cap. Mmh. Et donc permettront aux développeurs de mieux s'exprimer également sur cette portable. Mmh. Donc je suis curieux aussi pour ça.
Les mauvaises langues diraient rattraper la PSP actuelle.
Ouais, ou voir tout simplement rattraper l'iPhone aussi. C'est terrible, mais je crois que l'iPhone est un peu plus puissant en fait qu'une DS normale.
Le 4.
Donc, voilà.
Mais apparemment, ça c'est pas parti pour être non plus extraordinaire. Ça dépend un peu du projet que tu vas faire. Mmh. Mais si tu veux faire un truc avec plein de personnages à l'écran, de l'IA,
ça manque
des
un peu de RAM apparemment.
ça va être ouais voilà enfin bon.
Et puis il y a un point, parce qu'on vous renvoie hein, au podcast de la fin, le bilan 2010, où Thierry et Ragal étaient avec nous. Et on a énormément parlé de la 3DS, on ne va pas revenir dessus pendant des heures. Mais il y a une chose dont on n'avait pas parlé, si je me souviens bien, l'année dernière,
c'était il y a longtemps,
en fin d'année, c'était la réalité augmentée. Alors c'est quelque chose qu'on voit apparaître sur les iPhones, les iPads, ce genre de choses, aussi sur la PSP avec des titres comme Invisimals. Mais c'est vrai qu'avec la 3DS, qu'on imagine avoir un beau succès aussi, et c'est souvent comme ça, c'est partir un peu avant, pas avec la killer app qu'il faut, bah ça ne fait pas vraiment gloire à la technologie qui peut être intéressante. Et c'est vrai que peut-être que la 3DS va permettre de démocratiser un petit peu l'utilisation de la...
Clairement, on l'a vu avec. Il y avait déjà quelques jeux japonais avec la DSi qui utilisaient ça. Mais là, ça pourrait être hyper rigolo parce que c'est portatif, tu l'as avec toi, tu as juste à poser une carte par exemple sur la table, tu le regardes à travers ta visualisation. Moi, j'ai vu ça notamment pour des shoots. C'était une espèce de ville que tu avais devant toi. Toi, tu étais une espèce d'hélicoptère et tu avais des zombies que tu devais. Voilà. Et c'est rigolo. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses, effectivement, comme tu le dis. C'est intéressant de le souligner. Je crois que la réalité augmentée va vraiment avoir un espèce de tremplin avec la 3DS. À voir après si ça va être utilisé partout, mais un vrai tremplin.
Okay. Moi, je suis curieux de voir ça aussi.
Ouais. Elle a un avantage technique, c'est qu'elle a deux appareils photo sur le dessus, donc elle peut percevoir bien mieux la profondeur aussi. Donc,
parce qu'elle prend les photos en 3D.
Ouais, même si les objectifs sont de médiocre qualité, c'est quand même un avantage pour ce genre de choses aussi.
Effectivement. Allez, on va enchaîner un autre temps fort de cette année 2011. Ce sera traditionnellement au mois de juin, ce sera au début du mois de juin cette fois-ci. Ce sera l'E3. Et à cet E3, eh ben, normalement, on devrait en prendre plein la vue, car normalement, de nombreuses annonces hardware devraient être effectuées. Alors, la 3DS était l'année dernière, mais cette année, on devrait avoir l'apparition de la PSP2, dont on a vu énormément de choses commencer à transparaître un peu sur Internet, des premières images, on parle de slider, on parle d'une puissance proche d'une PS3, mais aussi monsieur Pachter, notre ami Pachter, analyste jeux vidéo américain, qui parle d'une console qui devrait être mort-née directement à son lancement. On parle effectivement aussi d'une zone tactile intéressante, hein, mais un peu mystérieuse encore, qui se trouverait derrière la machine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette PSP2?
Ça va être chaud pour elle, hein, puisqu'elle sort juste Thierry. après la 3DS, donc il y a eu un buzz énorme là-dessus. Peut-être que pas mal de gens se seront déjà équipés, donc racheter une nouvelle console portable, ça sera pas évident pour tout le monde.
Et tout le monde posera la question, elle a un écran 3D? Et les gens leur répondront, bah non. Voilà. Ouais. Ça sera un petit retard, ils arriveront pas à communiquer sur
le principal avantage. Ça sera peut-être 3D avec des lunettes.
Ou 3D avec des lunettes.
Ça serait pas terrible quand même.
Mais pour une fois, je suis d'accord avec Pachter, notre analyste, qui normalement fait toujours des
Nostradamus-y.
Exactement. Et en fait, là, ce qui est intéressant, on l'avait dit dans le précédent podcast, mais c'est que moi, je crois plus à la marque PSP, en fait.
Ah oui.
C'est-à-dire que la marque PSP aujourd'hui, même si elle se vend encore, enfin l'UMD, bon voilà, passons. Le téléchargeable, je pense qu'ils étaient trop en avance sur le tout téléchargeable avec la PSP Go. Aujourd'hui, elle se vend avec 6, 10 jeux. Voilà.
Alors là, je t'interromps juste une seconde, parce que quand on dit trop en avance avec le tout téléchargeable, l'iPhone dont on va parler, l'iPhone, l'iPad, c'est vraiment du tout téléchargeable, ça cartonne.
Ouais, mais
en 3G.
Tu l'as partout avec toi, en fait. Mm-hmm. En tout cas, moi, mon iPhone, quand je me connectais, j'ai pas à réfléchir à me dire attends, il faut que je sois dans un truc Wi-Fi, etc. Quoi. Et c'est l'utilisation qui en est faite avec des jeux adaptés à ce support. C'est que si tu dois télécharger un jeu qui fait, je sais pas, 600 mégas ou 1 giga, c'est plus compliqué.
C'est pas la même blague.
Non, c'est pour ça que moi, la PSP, autant c'est une console, quand elle était sortie la première, j'étais abasourdi par la chose. Après, moi, personnellement, de mon utilisation, je ne suis pas un utilisateur des consoles portables. J'ai commencé parce que voilà, je suis en deux roues, je prends un peu le métro. Voilà, donc, ce n'est pas une vraie utilisation. Mais la DS, elle, a apporté quelque chose de différent que je pouvais avoir sur mes consoles de salon. Mmh. Donc, la DS, j'y ai joué. Mmh. La 3DS va apporter quelque chose de différent de mes consoles de salon, donc je vais y jouer. Mmh. La PSP2, moi personnellement, quand on me dit ça va être aussi puissant que la PS3, et même si c'est le cas, ça va pas me faire bander. Ouais. Ça va être bien pour jouer à des jeux comme actuellement la PSP, c'est-à-dire des jeux qui sont adaptés, des God of War, des Disgaea, des jeux machin, mais je vois pas où elle va aller, en fait. Je vois pas quel va être son prix, quels vont être ses killer apps. Voilà, franchement, j'ai du mal de dire ça, mais parce que la PSP1 était vraiment un beau produit, mais j'y crois pas. J'y crois plus.
Et alors, rappelez-vous, auditeurs de Gameblog.fr, Rappelez-vous la prédiction que j'avais faite. J'avais dit, putain, mais pourquoi on n'aurait pas une console qui arrive à marier à la fois portativité, côté nomade, et console de salon. C'est-à-dire, quand on évoque la PSP 2 comme une petite PS3 dans ta main, pourquoi on ne développerait pas des jeux, les développeurs ne feraient pas des jeux transversaux qui permettraient en fait d'avoir, je ne sais pas, le God of War 4 par exemple, Uncharted 3, que tu joues dans ton salon, et puis tu connectes avec un câble ou un Wi-Fi, en Bluetooth, ce que tu veux, etc., ta PSP 2, t'as l'équivalent du même jeu, peut-être avec des graphismes un tout petit peu moins beaux, mais juste un tout petit peu moins beaux, sauvegarde synchronisée, et tu continues ton aventure, la même, strictement la même, en nomade. Et là, quelque part, tu transcendes l'expérience.
Attention, oui et non. non, je trouve que ça, c'est rigolo, parce que c'est un fantasme de joueur, et c'est super intéressant. Et puis c'est un petit peu ce qu'on avait vu il y a très longtemps à la conférence Sony à l'E3, où tu sais, le premier GT5 qu'ils avaient montré, t'avais sur ta PSP, c'était ton rétroviseur, oui, ou des trucs du genre. Et ça marche parfois, on l'a vu avec le GameCube, enfin, ou la GameCube, avec, rappelle-toi, c'est les jeux qui étaient sur GBA et qui reliaient. Mmh. Maintenant, moi, je pense que ce que tu dis, ça va se réaliser, mais pas de cette manière-là. Moi, je crois vachement au service type OnLive. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire des jeux. Je pense que d'ici 5 ans, ça va vraiment tout déchirer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des jeux PC ou ce que tu veux, mais qui vont être après streamés. Parce qu'on rappelle, OnLive, c'est juste un flux vidéo qu'on reçoit. Mm-hmm. Donc, on va streamer sur ton iPhone, sur ta télé. Voilà.
Et on voit qu'OnLive arrive sur l'iPad, là.
Voilà. Donc, c'est qu'en fait, ça sera plus centré autour d'une machine. Et tu pourras voir tu pourras ton contenu quel que soit le support. Et moi, je crois plus à ça. C'est-à-dire que quand tu vois l'argent qui a été mis dans OnLive, quand tu vois à quel point il commence maintenant à percer, en tout cas aux États-Unis, tu vois que ça fonctionne. Bon,
il y a Gakai aussi qui arrive de David Perry.
Mais là, OnLive, ce qui est assez marrant, ils ont déposé des brevets maintenant. C'est eux qui en sont qui ont inventé la chose légalement. Mais je pense que ce principe-là, à terme, moi en tout cas, en dehors des aspects techniques dont je connais pas grand chose, avec le lag et ça peut être un petit peu lag, etc. Mais si tu payes de manière mensuellement un abonnement qui te donne accès à tous les jeux, par exemple, sans avoir à renouveler ton support, je pense que c'est une vraie tendance aussi qu'on va voir émerger en 2011 pour les plus précurseurs.
Mmh. Alors justement, le problème de la tarification et du business model de ces services-là, c'est le centre du truc. Et OnLive, pour le moment, t'as pas d'abonnement qui t'ouvre toute la librairie de tous les jeux.
Parce que les éditeurs doivent.
Voilà, ils font stop parce que c'est le un principe qui est valable pour toute la dématérialisation, quelle qu'elle soit, même en consommation. Tant que la distrib traditionnelle freine un petit peu, etc., on peut pas passer à ces modèles-là.
Moi, je pense que c'est aussi. Moi, je suis pas parfaitement légal dans tout ce que je fais sur Internet. Pour le jeu vidéo, je le suis. Pour la musique, je le suis avec Spotify, par exemple, parce qu'il y a des offres pour les séries. Par exemple, moi, je télécharge beaucoup de séries américaines. De manière pas forcément légale, mais je pense que notamment le OnLive avec un abonnement, ça peut être un excellent support contre le piratage. Mmh. Si,
ah bah oui.
Et voilà, ou location, tu loues à courte durée. Et moi, je crois vraiment en le jeu vidéo qui devient, au niveau distribution, qui devient plus un service que tu achètes, etc. Et je crois vraiment qu'on va vers ça.
Tu veux réagir,
je suis d'accord là-dessus, mais pour revenir sur la PSP 2, je pense qu'aussi l'expérience offerte sur PS3, par exemple, tu vas jouer à God of War 4 sur ta big télé ou alors sur ton rétroprojecteur, etc. Le choc de passer ensuite sur un petit écran avec des graphismes potentiellement légèrement dégradés sera trop rude pour que vraiment ça fonctionne. Donc,
apparemment, ce sera pas si rude que ça. Enfin, en tout cas, d'après les dernières rumeurs, machin.
La taille de l'écran sera
réduite. La taille de l'écran est réduite, ça fait pas du 1080p. Donc, du coup, tu économises beaucoup de ressources système. Et le processeur de la PSP2 serait à peu près à moitié équivalent à celui de la PS3. Et ça suffirait pour faire des jeux qui ont la même gueule en passant d'un
écran.
T'as pas la même expérience. C'est une expérience globale, t'as aussi le son, parfois t'as des installations sur RAM qui vont bien avec, t'as fond dedans.
Qui va développer dessus à part Sony? Aujourd'hui, si tu développes pour une console portable, tu développes plus pour la DS ou la 3DS, ou à la rigueur pour iPhone, le 4, le 5, comment en parler,
on va pas pouvoir vraiment tout dire ici, mais enfin, des échos très avancés de jeux qui ne viennent pas de Sony, qui sont des très grosses licences.
Sur PSP2. Mais j'espère, moi, qu'elle trouvera un public, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai du mal à y croire, quoi.
commercialement en tout cas.
Commercialement,
je suis d'accord, mais moi j'utilise assez peu la PSP en temps normal puisque le line-up me convient moins. En fait, je préfère l'offre sur DS et donc du coup j'attends davantage la 3DS. On verra si quelques titres sont vraiment impressionnants, apportent quelque chose. J'y passerai, je m'y intéresserai. Mais là, pour l'instant, c'est clairement pas une machine que j'attends plus
que ça. Qu'est-ce que vous pensez ou imaginez autour de cette étrange zone tactile arrière?
Vous avez des idées?
Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est, en gros, alors je ne sais pas si vous êtes utilisateur d'iPhone, d'iPad, etc. Mais donc souvent, on a son doigt devant et on cache les choses sur lesquelles on appuie. Avoir, et parfois, ça gêne la visibilité. L'avoir en dessous fait que tu peux faire les mêmes interactions, tirer, glisser, pointer, etc.
Ça me
sans voir.
Ça paraît compliqué.
Sur le papier, ça me paraît bien, mais dans les faits, ça me paraît pas hyper intuitif. Quoi. Il faut voir la taille de l'écran, il faut voir beaucoup de choses.
Non, mais en plus, tu veux jouer à l'envers un petit peu, donc ça va être compliqué. Je sais pas.
Non, mais par exemple, peut-être que ça fasse juste. Tu le retournes, comme ça fait comme un trackpad ou un Magic Trackpad là sur Apple.
Pour ta PS3.
Enfin, tu peux penser que ça va donner en fait que c'est plus des accessoires qui sont pas forcément utilisés pour le jeu et plus pour plus pour une navigation.
En tout cas, si on prend la température ici là pendant ce podcast donc à janvier 2011, il y a quand même une excitation autour de la 3DS et une attente au niveau de la PSP2 qu'elle nous surprenne.
Je crois que ça résume bien.
Jules Laurent, on est d'accord.
Et en termes de jeux, enfin quelle offre quelle offre des jeux, parce que la PSP1 qui est une belle console. Moi il y a deux trois jeux qui me viennent en tête quoi, il y a Lumines, Locoroco.
Non, il y a beaucoup de bons jeux sur PSP. Non,
attention.
Je redis en fait.
Il y a peu de jeux spécifiques avec des IP spécifiques à la PSP. C'est-à-dire qu'il y a des excellents jeux pour moi qui viennent de l'univers PS2, PS3, mais spécifiques à la PSP qui ont été créés pour PSP, il n'y en a pas tant que ça.
Pas tant que ça, ouais. C'est vrai.
Autre annonce possible, potentielle, très potentielle de l'E3 2011. On vous en avait parlé l'année dernière, justement, à la veille de l'E3, la fameuse Wii Hi-Fi. Et alors, beaucoup de personnes se sont moquées, car oui, elle n'a pas été dévoilée, bien sûr. Mais sachez qu'une fois de plus, c'était des informations réelles, tenues auprès des développeurs et certains éditeurs stars du monde du jeu vidéo. La machine était en cours de conception, elle devait potentiellement être dévoilée à l'E3 2010. Ils en ont décidé autrement la veille de la conférence, car effectivement, la conférence Kinect de Microsoft n'avait pas véritablement emballé le monde, et qu'en gros, juste avec la 3DS, ça suffisait. En revanche, il apparaît maintenant très clair que la nouvelle Wii, on va l'appeler comme ça pour l'instant, le nom de code de l'année dernière, c'était la Wii Hi-Fi. Peut-être que ça aura changé d'ici là, probablement même.
Vas-y.
Mais la nouvelle console de salon de Nintendo devrait arriver. Les premiers bruits de couloir qu'on a, c'est Nintendo aurait trouvé quelque chose de nouveau et une fois de plus de surprenant. Allez, c'est l'instant Paco Rabanne, messieurs, il va falloir se mouiller un petit peu.
Je pense que déjà,
qu'est-ce que vous imaginez ?
Ils passent à la HD, ça c'est une évidence. Ensuite, ils avaient présenté il y a, je crois, 2 ans, une sorte de petit système qui se branchait sur le doigt.
Ouais.
Pourquoi pas un gant ? Tu vois, genre un truc comme ça qui viendrait, un truc très fin. Ou
retour du Power Glove.
Et qui du coup, ce serait pas du Kinect. Genre, vraiment, avec ta main, tu pourrais avoir une réelle interaction qui serait prise en compte. Ouais. Donc, il y aurait plus ce lag qui apparaît.
Tu sentirais les choses. Parce que l'un des problèmes de Kinect, c'est que tu bouges et tout, mais tu n'as aucune sensation, pas de vibration, rien.
Ils ont toujours accompagné la Wii, ils l'ont accompagné avec un nouveau périphérique, quelque chose qui permettait aux gens de s'immerger davantage. Je pense qu'ils vont dans cette direction également. Donc on va sans doute avoir des surprises à ce niveau-là. Et je pense qu'on aura très certainement ensuite pour les autres consoles des équivalents qui sortiront en 2012.
Moi, c'est pareil. Enfin, j'ai plein d'envies, plein de fantasmes de joueurs qui viennent en tête. Mais après, c'est qu'est-ce qui est faisable? Je pense que, est-ce qu'ils vont déjà chez Nintendo, ils ont une vraie politique à chaque fois d'être rétrocompatible. C'est que la Wii, tu peux jouer à tes jeux GameCube, t'as encore les ports GameCube, etc. Est-ce que la nouvelle, potentiellement, est-ce que tu peux encore jouer à tes jeux Wii? Si c'est le cas, ça veut dire est-ce que tes manettes seront compatibles? Est-ce qu'il y aura toujours, est-ce que l'élément de base d'utilisation sera toujours la Wiimote? Parce que est-ce qu'il faut être compatible avec le reste? Est-ce que les gens pourront toujours utiliser ce qu'ils ont déjà acheté pour réutiliser? Ça, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que je sais pas si on fantasme pas trop.
Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre.
Bien sûr,
il
bien sûr.
Compatibilité
bien
Wiimote,
sûr. Moi, je me rappelle encore quand on a annoncé la révolution, donc qui était la Wii, les fantasmes qu'il y avait. Alors, au final, effectivement, c'était une révolution. on peut pas dire le contraire.
Bouleverser le monde du jeu vidéo. Contraire.
Mais je me rappelle des fantasmes de joueurs dans les forums.
Et puis il y a même eu des vidéos fake
ouais, avec, ouais, avec un casque de réalité virtuelle
hallucinant fou, et au final voilà, on est retrouvé à un truc très simple. Moi je pense que Nintendo va faire un truc pareil, un truc simple. C'est pour ça que le peut-être le gant par exemple sur papier,
trop en avance
ou la taille du gant, le truc, le machin,
c'est
le...
vrai que Nintendo a toujours travaillé sur le côté avec des vieilles technologies de manière à ce que le prix soit accessible et toucher un maximum de gens. Ouais, donc, du coup
la pensée latérale des technologies, c'est exactement ça, propre voilà. À Gunpei Yokoi.
Okay. Ah ouais, qui se vérifie pas forcément avec la 3DS, mais, non. Voilà.
Mais oui, peut-être qu'on peut imaginer une technologie. Non, je dis n'importe quoi.
Non, mais moi je pense qu'ils vont aller sur une technologie extraterrestre, car Miyamoto et Monsieur Iwata ont rencontré Dieu et ils ont vu la lumière. Non, mais c'est vrai qu'apparemment ils ont trouvé quelque chose. C'est ça qui est excitant, quoi.
Peut-être
c'est
qu'ils ont juste trouvé la HD. C'est ça. On a trouvé la voie de la HD. Bah,
non, mais mine de rien, blague à part, déjà ce sera pas mal. Ouais, c'est vrai d'avoir des jeux Nintendo avec une résolution un peu supérieure, peut-être.
Non, voilà, en fait,
du jeu en ligne et des options.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que la grosse faiblesse aujourd'hui de Nintendo pour moi, c'est le jeu en ligne. C'est devoir avoir. Si t'as pas une notification unique pour tous les jeux, que tu dois à chaque fois rajouter.
Le code ami, il faut le.
C'est vrai, mais ça, c'est pour la famille.
Une peur panique de cette boîte de Pandore qu'est le jeu en ligne par rapport à leur public un peu. Je vais pas dire bon enfant, mais voilà, ils ont tellement peur de toutes les merdes du type qui va gueuler des insultes à ton fils de 6 ans.
C'est qui mérite peut-être. C'est qui mérite.
Mais ça leur fait très très peur. Alors peut-être qu'ils ont trouvé après un moyen d'éviter ça en architecturant un service autour de ce genre de problématique.
Moi j'espère qu'ils vont sortir de leur code ami. J'espère. Ouais, mais qu'ils vont arriver, si tu veux, qu'ils vont arriver vraiment à un truc intégré total. Et pareil, qu'ils ouvrent un peu. En tout cas, aujourd'hui c'est malheureux. D'un côté pour ceux qui n'ont pas de Xbox, mais la plupart des excellents jeux indés, ils sont sur Xbox Live Arcade et un peu sur PS3. Ouais. Et sur Wii, il y a quasiment rien. Voilà,
oui, il y a quelque chose de moins important, mais il y en a quand même. Y en a.
Ouais, mais
y a...
quand tu sors un jeu WiiWare, tu sais que c'est
mort.
Il y a tellement pas d'espace, il y a tellement pas de service derrière pour dire bah tiens, il y a ça qui est sorti, vous cherchez quoi comme genre de jeu, etc. Non, c'est un bordel monstrueux, c'est des images toutes petites.
Et
avec
même
une
pour les développeurs,
merdique.
Ils s'y retrouvent pas financièrement parce qu'il faut franchir un certain cap de vente assez relativement élevé pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Ouais. Je crois que les 5000 premières ventes Nintendo se payent et toi t'attends toujours, et puis c'est après, et puis c'est dégressif, etc. Enfin bon,
ce qui est contraire à tous les autres modèles.
Ouais. Est-ce qu'ils vont pas encore attendre un an de plus? Enfin, franchement, moi je me pose la question, c'est est-ce que on aura tous pas encore, enfin, on a encore de con en disant ouais elle arrive, et puis en fait non, quoi, parce que moi je me rappelle à Game Cult, on se moque bien de moi en interne encore parce que j'avais annoncé la Wii HD. Voilà,
t'étais vraiment sacrément con, hein.
non mais en fait moi mes sources étaient crédibles. Ouais. C'est qu'en fait c'était un matériel qui allait augmenter la qualité du... et en fait c'était le truc plus là,
Wiimote
plus.
Ah ouais,
en fait c'était
Wiimote
le Wiimote plus. Moi je l'avais interprété différemment. Ma source était bonne, je l'avais mal interprété. Mais moi je pense que si ça se trouve au bout d'un an, si ça se trouve ils peuvent encore, franchement aujourd'hui avec tout ce qui sort sur Wii,
mais c'est le problème. Je pense que c'est pas possible, ça.
Je crois que c'est le problème.
Déjà tous les gens maintenant sont équipés quasiment, enfin vraiment beaucoup de gens équipés en HD. On va que les gens commencent à passer à la 3D tout doucement, et donc on aurait encore une Wii qui serait pas HD, donc qui serait en retard de deux générations.
Apparemment l'année 2010 sur Wii, Super Mario Galaxy 2. Tu vois, Super Mario Galaxy 2, ça passe encore pas en HD. Et
ah, mais sans problème. Donc, l'année prochaine, ce sera plus difficile, je pense.
Alors, je mets un truc qui fait que je peux pas être d'accord avec toi. C'est que Zelda, c'était le premier jeu de la Wii. Ça doit être le dernier jeu de la Wii pour Nintendo. Et attends, je m'explique.
Ils ont balancé tous
leurs jeux. C'est-à-dire que les développeurs extérieurs ne travaillent plus sur Wii. Il n'y a pas de gros développement là en cours sur Wii.
Et puis tout ce côté
de Nintendo,
des jeux sont faits,
toutes leurs cartouches, elles sont parties. C'est-à-dire que le 3 dernier et le Noël qu'on a vécu, c'était le Noël des gamers. En gros, leur dire hey les gars, vous nous avez dit qu'on était que casual, etc. Non, mais non, regardez, on pense grave à vous et tout. La suite, ça va être génial. Venez. Là, ils ont tout balancé en termes de marketing, de communication, etc. Et le problème, c'est qu'ils n'ont plus de jeu. Et le problème, c'est d'ailleurs pour ça qu'entre guillemets, avec les discussions qu'on a eues avec certains développeurs, c'était risqué aussi de ne pas communiquer sur la nouvelle Wii à l'E3 dernier, c'est parce qu'ils finissent la Wii, et que du coup elle va arriver, et que normalement, tous les échos qu'on a, ils la vendent dans la foulée Noël prochain.
Il y a des choses qui vont dans ce sens
aussi.
Et que
du coup, il faut des jeux. Et que s'ils ne le font pas, c'est quoi les jeux de la Wii l'année prochaine ?
Parce que moi, par exemple, il y a un truc, je veux pas être fanboy, mais sur Dragon Quest X, ils en ont parlé à un moment donné sur Wii, et ensuite, plus rien. Ouais. On n'en parle pas. Ça veut dire quoi ? Ça va sortir sur 3DS ? où ça va sortir sur la prochaine Wii, mais en tout cas il est clair qu'il y a, il y a un manque au niveau des annonces qui suggère,
c'est pas le premier jeu qui fait genre, le bon à une
voilà,
nouvelle
exactement.
Machine
ouais, ouais.
Mais c'est pour ça que moi je pense aussi que la vie et le succès du lancement et de la 3DS est super important et conditionnera les annonces et la communication et le lancement de la Wii,
comme la DS l'a été pour la Wii hein.
Voilà, donc si la 3DS cartonne et fait le buzz et fait que Nintendo reste dans l'actu et continue à dominer le marché avec quelque chose d'un peu nouveau ou machin, ils auront plus de temps pour voir venir les choses, peut-être réviser certains trucs, lancer des développements en amont, etc.
Il y a combien de Wii dans le monde
plus
aujourd'hui?
Plus de 75 millions.
Tu vois, s'il n'y a plus de jeux dessus, moi je serai un développeur, si tout le monde fait sur la Wii 2, moi je sortirai encore des jeux sur Wii.
Bah oui, si tout le monde la quitte, oui.
Mais le problème, c'est qu'à part Nintendo, personne ne vend. C'est-à-dire que même les lapins crétins avec ça ont énormément de mal maintenant à bien marcher.
Ouais, mais si tous les éditeurs tiers quittent la Wii et que donc Nintendo n'a. En plus, ça serait pas la première fois qu'ils ne sont pas forcément suivis.
75 millions, putain, c'est.
Et que donc Nintendo se retrouve tout seul à défendre le camp et qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit bah moi j'ai un projet sympa, etc. Évidemment, le truc qui fonctionne, ils peuvent aussi peut-être bénéficier d'un appui supplémentaire avec Nintendo et donc finalement s'en sortir et avoir un business intéressant.
On l'avait vu avec la Game Boy qui devait être morte et puis tout d'un coup il y a les Pokémon qui sont sortis et la Game Boy, blam, elle a repris pour Wet. Donc bien évidemment, c'est rien n'est figé, mais tout
c'est ça qui est fantastique dans le jeu vidéo.
Tout concorde à peu près pour dire quand même que là, on y arrive. Hein, vraiment les échos que.
Et puis pareil, le prix, c'est qu'aujourd'hui la Wii coûte pas cher. Si ça augmente de prix, je sais pas. Moi, s'il y a une nouvelle console qui sort de salon chez Nintendo, est-ce qu'elle sera moins chère que la 3DS, plus chère que la 3DS? Voilà,
même prix.
C'est des questions qui se posent aussi, quoi.
Et puis ouais. Rappelez-vous les brevets là, ZI, OI, etc.
Ouais,
on n'en a jamais reparlé.
Des pots de marque, ouais.
Mais putain, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer une espèce de constellation de trucs qui font qu'on aura. Ils l'ont dit à Nintendo, hein, ils parlent plus de Sony, ils parlent plus de Microsoft. Hein. Ils disent notre ennemi c'est Apple.
C'est Apple, ouais.
C'est Apple. Hein. Je sens qu'ils vont nous mettre avec la 3DS, c'est une partie, mais je suis sûr qu'il va y avoir d'autres choses tout le temps avec nous, un petit objet. Une sorte de Pokéwalker, un petit bidule qui fait qu'on sera constamment connecté avec nos jeux entre portables et je sais pas, un truc hybride à l'iPad.
Mais
enfin.
Ils l'ont montré, ça c'était super intéressant. C'est une fonctionnalité dont on en a peu parlé dans la 3DS.
Le
tout en bouche.
Voilà, sur les Chigai, c'est ça.
C'est qu'en fait, le truc, en fait, quand elle est en veille, elle communique.
Elle est connectée.
C'est que si tu passes à côté de quelqu'un. Par exemple, qu'il y a genre non, ouais, le Super Street Fighter, enfin le Street Fighter de la 3DS. En gros, moi je joue Dhalsim, toi tu joues Ryu. Et si on passe à côté, qu'on se connaît pas, il y a un jeu qui va se passer. Mon Dhalsim va se battre contre son Ryu. Et le soir, quand je vais ouvrir,
vas t'apercevoir que t'as perdu.
Je vois que j'ai perdu parce que Dhalsim, voilà, on sait ce que ça vaut. Mais toi, ça c'est super intéressant. Ouais. Et pareil, autour de ça, tu peux faire aussi. Il y a plein d'idées rigolotes à faire, même qui sont en dehors du jeu. Des trucs de drague, des trucs de machin. Enfin, il y a. Il y a, je pense.
Comment t'as réfléchi à des trucs, toi hein.
plein de trucs. Mais en gros, la 3DS en tant que telle est déjà, avec ce qu'elle a dedans, pour moi, c'est ça ce que tu dis. Le petit truc que t'as sur toi, c'est ta 3DS qui communique en permanence, même quand elle est en veille. Et ça, si les développeurs, à la fois de jeux ou de non-jeux, enfin, tu sais, les trucs pour
les applications, quoi.
Les applications, ça peut être un vrai concurrent aussi à l'iPhone, quoi, clairement.
En tout cas, à l'écoute de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est quand même un terreau et de fantasmes. Parce que Nintendo a bouleversé le jeu vidéo. Mmh. Et deux fois consécutivement, avec la DS et avec la Wii. Et que c'est vrai que la 3DS est une fois de plus surprenante, riche de plein de promesses. Donc maintenant, clairement, Nintendo a les cartes en main. En tout cas, j'en connais qui pleureraient toutes les larmes de leur corps si effectivement il y a une nouvelle Wii, quelque chose qui est présentée. Parce que alors, du côté de Sony, s'ils présentent leur PSP2 quelques heures après, que Nintendo leur a une fois de plus style jeu chaud avec quelque chose d'impressionnant, ça va pas rigoler. Mais on en arrive en tout cas à un point très important en 2011. Ça a commencé véritablement il y a quelques années. En 2010, ça a été très important, mais on le sent hein, vraiment. Maintenant, c'est plus une tendance.
Puis on n'arrête pas d'en parler dès qu'on parle d'autre chose. Donc,
Exactement. C'est l'iPad, c'est l'iPhone, c'est ces devices-là qui sont là avec vraiment maintenant la possibilité de télécharger des jeux à tout moment, des petits jeux, et plus que des petits jeux. On a vu par exemple avec la replay d'Epic Games, avec Infinity Blade, qui en 4 jours s'est payé le luxe quand même de battre tous les records de vente des jeux iPhone. 1,2 million d'euros générés en 4 jours, c'est quand même assez impressionnant. Il y a déjà des rumeurs d'iPhone 5 qui devrait sortir l'année prochaine, enfin cette année maintenant, en 2011, avec un écran 3D relief à l'image de la 3DS. On a vu dans la dernière keynote de Steve Jobs nominativement attaquer Nintendo et Sony. Ils l'avaient jamais fait. En gros, ça y est, les cartes sont sur table, tout le monde est en train de se préparer à une sacrée guerre quand même. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, c'est vachement intéressant. Apple a un avantage énorme, c'est qu'ils sont pas partis du tout du même endroit. Ils attaquent le marché avec des téléphones, des devices que tout le monde utilise et dont tu peux pas te passer. Alors qu'une DS, bah, si tu l'oublies, c'est pas grave quoi. Ton téléphone, tu l'oublies. C'est pénible pour tout le monde.
C'est ça recoupe tout à fait. Pardon, je t'ai peut-être coupé.
Non,
tu
vas
regarder avec tes yeux. Ouais. Tes yeux pleins d'amour. Non, en fait, c'est ça. C'est que je pense que la 3DS, ci-dessus, elle a des applications. Justement, tu l'as toujours sur toi parce que ça fait jouer, machin, etc. Je pense que la clé est là. C'est la clé, c'est en portable. Il faut que tu l'aies toujours sur toi. Notamment en photo. En photo, par exemple, maintenant, même dans les trucs pro, les gens commencent à conseiller l'iPhone 4 parce que le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as toujours sur toi. Donc voilà, aujourd'hui, l'iPhone 4 est en train de tuer le marché des. Enfin, l'iPhone 4 et les autres smartphones. Le marché des compacts à cause de ça. Et je pense qu'effectivement, moi qui suis peu joueur en portable, je joue sur iPhone parce que quand je suis dans une queue, quand j'attends un truc, etc., hop, je sors mon petit jeu et je joue. Et je pense exactement comme Aran que la baston va être là-dessus. Et c'est pour ça que la 3DS, ils l'ont annoncé dès le départ. Moi, je crois vraiment à tous ces trucs connectés en permanence. Et c'est ça qui fera que tu as envie d'avoir ta 3DS avec toi. Et c'est ça, ce sera ça sa force.
Raon. Il y a deux trucs en plus qui font partie de ce raisonnement-là. C'est que la connectivité permanente de l'iPhone, elle est avec Internet, pas avec le PSN, le Xbox Live, le machin, non, c'est Internet. Donc déjà, c'est un service qui est potentiellement bien plus vaste et bien plus intéressant que tout le reste. Et la 3G.
C'est là où je voulais en venir. Vous trouvez pas ça hallucinant quand même que pour l'instant sur la 3DS on n'ait pas eu d'annonce 3G?
Mais c'est pas hallucinant, c'est compréhensible.
C'est compréhensible tout à fait. Enfin, ouais, c'est totalement compréhensible.
Mais
c'est
en
un
option,
bordel.
Je sais pas.
Oui, mais c'est un. Alors, le problème, c'est qu'il faut que.
Parce que moi, c'est ce qu'Apple Wi-Fi, a fait. Enfin, aussi... Il y en a pas partout.
Oui, oui, mais
temps,
c'est ça. C'est ça. C'est là où Apple a vraiment réussi à imposer. Enfin, avec l'iPhone, parce qu'avant, ils ne le faisaient pas. Ils ont été voir tous les câbles opérateurs, enfin, les grosses boîtes de télécommunications. Et ils ont imposé leur truc. Et les gens, passé la première génération de l'iPhone, les Orange, les machins, les bidules, tout se battait pour avoir l'iPhone. Ça a marché. Et voilà, aujourd'hui, ces opérateurs-là sont, qui étaient traditionnellement.
Ils subventionnent l'achat de ces devices.
Bien sûr, et qui traditionnellement avaient le pouvoir sur le réseau 3G. C'était eux qui décidaient si tu sortais ton téléphone ou ton machin à tel truc. Bah, c'est devenu l'inverse. Apple a repris le pouvoir là-dessus. Et Nintendo, pour l'instant, en tous les cas, à ma connaissance, n'a pas ces partenariats-là, n'a pas construit tout ce truc-là. Et autant tu peux le faire aux États-Unis assez facilement, c'est ce qu'a fait Apple aussi d'ailleurs sur le premier iPhone. D'abord, on s'occupe des États-Unis et ensuite on va voir le reste. Autant, je sais pas, aujourd'hui, si tu sors une console un an avant aux États-Unis, enfin, on n'est plus en 90, quoi.
On peut plus avoir des sorties. Bon, on doit avoir des sorties simultanées. Non, moi, ce que je retiens aussi, la force d'Apple, en fait, c'est ce qui énerve tous les pratiquants du libre et du PC, c'est que l'écosystème est fermé. Et c'est ça, une console. Une console, c'est un écosystème fermé. C'est quand tu développes sur une console, tu sais quelles sont les spécificités. Elles vont pas bouger, elles vont pas changer. Alors l'iPhone, ça change tous les ans, mais doucement, et on sait. Par exemple, pour moi, c'est ce qui fait la grande force en termes de console de jeu d'un iPhone versus un Android. C'est qu'Android, tu sais pas exactement sur quoi tu développes. Et la force d'Apple, et c'est ça qui fait sa force dans le jeu vidéo aussi, c'est que c'est comme si c'est une console, dans le sens où c'est un écosystème fermé et on sait.
Donc c'est maîtrisé du début à la fin.
On maîtrise du début à la fin, on sait quel processeur ça va être, combien de RAM, combien de ça, etc.
Ta vision là-dessus, Thierry, sur l'explosion vraiment du marché du jeu vidéo, hein, sur ces.
Moi, ça m'impressionne. J'ai pas encore d'iPhone, j'ai pas encore de portable super génération. Genre, j'ai un vieux truc avec genre juste NEC dessus. Mais je vais y passer. Et c'est vrai que lorsque je vois un petit peu HoloLife, les gens jouer, que ce soit des vieux shoot cave sur iPhone qui fonctionnent mais super bien au doigt. Ensuite, ce qui me fait un peu peur, moi, c'est j'aime pas trop ces jeux qui émulent les interfaces.
Oui, effectivement, ça c'est un des problèmes de ces plateformes.
Et donc du coup, tu te retrouves, donc c'est intéressant aussi puisque ça permet aux développeurs de créer vraiment des petits concepts intéressants. Mais est-ce que ça limite pas non plus la création d'un point de vue purement ludique, donc ce système de tactile uniquement.
Je suis super d'accord avec toi parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de marché On parle pas vraiment de jeu et de joueur. Et moi, mon point de vue de joueur, c'est que je déteste. Enfin, j'ai plein de jeux sur mon iPhone, hein, on s'entend bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je veux constater un peu la prouesse technique de dire ah, c'est vrai que ça marche un shoot. Ah, Street Fighter, ça. Alors, certains vont dire que ça marche Street Fighter. Pour moi, ça marche pas du tout.
Non, c'est marrant, c'est parce que justement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, moi, je joue pas ces jeux-là sur iPhone.
Ouais, moi non plus.
Tu joues qu'à des petites merdes.
Non, pas des petites merdes. À des petits jeux, mais pas des merdes.
Non,
Cubs Europe, c'est mortel et c'est un petit jeu.
C'est très bon.
Angry Birds, c'est un petit jeu, c'est mortel.
J'adore Angry
Birds. Jump, c'est mortel. Alors
Flight Control.
En gameplay, c'est appuyer.
Mais Thierry utilisait un terme qui pour moi est justifié, c'est le terme limitation, quoi. C'est limité. Tu te limites en fait à l'interface.
Mais t'as une force. Mais t'as une force en fait dans la limitation, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Ça crée des bons concepts.
Ouais,
c'est le retour à la jeunesse du jeu vidéo, quoi.
Complètement,
c'est,
mais ensuite ça va pas remplacer une console portable, une vraie machine dédiée aux jeux vidéo. Donc avec les boutons qui vont bien, avec les fonctionnalités qui vont bien. Donc ce sera, pour moi, pour l'instant, ce sera toujours du bonus. C'est-à-dire, on aura des concepts intéressants, on aura des trucs qu'il faudra absolument voir. Mais est-ce qu'on va passer énormément de temps à jouer sur un iPhone, sur un téléphone portable
Je suis pas sûr. Sur Layton, par exemple, tu peux le faire sur un iPhone.
Oui, bien sûr.
Il serait pareil aussi bien.
Attends, il y a les Chevaliers de Baphomet, le deuxième Chevalier de Baphomet
qui sort.
C'est super bien. Les jeux d'aventure sur iPhone. Mais donc c'est limité et juste. Putain, du coup j'ai oublié ce que j'allais dire.
Ça c'est Julo.
J'oublie tout le temps ce que je vais dire. Ça va me revenir probablement dans 5 minutes et je vous ferai.
Très bien, Mathieu, ce sera un instant Julo.
Ce qui est marrant, moi aussi, j'ai découvert l'iPad en termes de plateforme de jeu et ce que j'aimais vachement dessus parce que j'ai redécouvert en fait.
Le jeu de société.
Je les connais un peu parce que dans le podcast qu'on fait à Libé toutes les semaines, il y a Monsieur Fall de TrickTrack.net pardon, qui est le référent des jeux plateaux qui fait, donc à chaque fois j'écoute et donc voilà, je découvre. Mais là par exemple Small World, moi que j'ai découvert sur j'ai découvert sur iPad, c'est fantastique si tu veux. C'est que aussi ça t'amène, et le Xbox Live le faisait aussi un petit peu avec Carcassonne etc. Il y a des jeux de plateau aujourd'hui qui arrivent sur iPad et un petit peu moins sur Carcassonne sur iPhone. Tu joues avec 5-6 potes, chacun est chez lui, t'as ton truc, ta partie dure 3-4 jours, 5 jours, c'est fantastique. Donc t'as des... Ce qui est marrant, c'est que la résurgence des jeux de plateau que tu pensais voilà, aux oubliettes, totalement dévastés par le jeu vidéo, en fait, vraiment résurgence, quoi.
Alors attention, mesdames et messieurs, c'est l'instant Julo. Il a retrouvé ce qu'il voulait dire.
Et en plus, je vais rebondir là-dessus justement parce que, en fait, moi, ça me fait beaucoup penser aux jeux flash. Il y a énormément de créativité aussi maintenant sur les jeux flash, etc. Ça le dit, on n'en fait pas des tonnes en se disant que ils vont niquer Nintendo, etc. Pour moi, c'est vraiment différent, quoi. Le jeu sur iPhone, je le compare vraiment au jeu flash sur ordinateur. C'est pour moi une façon de créer des petits concepts rapides. Bon, c'est pas vendu les jeux flash, malheureusement.
C'est toute la différence, quand même.
C'est toute la différence, bien sûr. Mais cela dit, les jeux iPhone, ils se vendent aussi si bien parce qu'ils sont quoi, 3 euros, 4 euros oui. Par rapport aux...
Mais ça crée des marchés. Et ça crée aussi des développeurs
c'est
qui
ce
peuvent
que je dis. Y a un marché,
changer d'objectif de...
Il y a un marché, mais je pense pas que Apple, avec l'iPhone, puisse tuer... un autre constructeur sur le domaine des portables.
Tu es non, mais ça peut peut-être les freiner ou les rendre désuets.
Je pense
ou Epic Games par exemple.
Ça explose un peu le marché, c'est tout.
Quand Epic Games rentre sur le marché du portable, du jeu nomade, ils peuvent se dire bon, je le fais sur PSP, sur 3DS
mais
ou sur iPad.
Mais je le fais
non,
sur tout.
Non, vu leur dernière déclaration, c'est clairement pas sur les consoles
Epic.
Nintendo.
Par exemple,
pour beaucoup d'autres, c'est sur toutes les plateformes.
On l'a vu, tu peux pas avoir 4, 5 consoles portables.
Mais oui.
Et c'est ça la chose, c'est qu'à mon avis, l'iPhone va pas tuer la DS ou la 3DS, mais l'iPhone plus la 3DS peuvent tuer la PSP2.
Oui, clairement, tout à fait d'accord.
Voilà, c'est plus ça. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'on voit que ça devient des... Moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est la distribution. Et c'est aussi d'un côté de joueur, c'est qu'en fait, du coup, avec ces nouveaux supports, eh ben, tu as des nouveaux types de jeux qui arrivent et aussi des nouveaux types de distribution. Parlons d'Angry Birds. Angry Birds, c'est vachement intéressant. Le premier était gratuit. Voilà, c'est et après payant, c'est un peu comme la drogue, tu vois. Enfin, tu vois, c'est voilà, il y a des nouveaux formats de distribution, des nouveaux formats de jeux qui sortent. Aujourd'hui, tu peux avec peu d'argent sortir un jeu. 2010, on en a pas parlé dans les podcasts, mais moi ce qui m'a marqué sur 2010, il y a de moins en moins de grosses merdes.
Ouais. Le niveau de qualité
a monté.
Il y a plus de Devil X.
Voilà,
et puis Paris Marseille
Racing. Pourquoi? Parce que quand t'as pas beaucoup d'argent, plutôt que de faire un jeu pourri qui va se faire défoncer, qui risque de se vendre un peu sur PS3 ou Xbox ou machin, tu fais un jeu soit en téléchargement uniquement, soit un jeu iPhone, etc., qui va coûter moins cher, mais tu
petit
as plus
budget.
Petit budget, tu as plus de rentrée dans tes frais. Et du coup, ça apporte aussi une fraîcheur en termes de gameplay. Pour moi, Cut the Rope, c'est un excellent jeu, mais par rapport au prix, c'est fantastique. Mm. Tu vois, ou un Limbo. Un Limbo n'aurait pas vu le jour avant, ou un Flower l'an dernier.
Et un Limbo est tout à fait faisable sur un iPad, un iPhone, etc.
Tout à fait, ouais.
Parce qu'au niveau de la manipulation, c'est quand même très limité. C'est. Donc moi je vois vraiment un avenir effectivement. Alors imaginons que l'iPhone 5, on va l'appeler comme ça, hein, soit annoncé avec la 3D relief sans lunettes, comme apparemment c'est ce qui se précise d'être peut-être le cas. Franchement la PSP 2 là, elle va avoir mal au crâne, mais mal au crâne.
Surtout qu'imagine Apple l'interface qu'ils peuvent faire avec la 3D. Ah ouais.
Donc tout le monde suit Pachter.
Le con, il dit pas toujours que des conneries.
Bah
quoi.
Oui, mais c'est vrai, il dit pas que des conneries.
Et non, et non. Allez, un nouveau thème qui va agiter l'année 2011. Là, on a passé un peu au crible l'univers des nomades. Bah, reconcentrons-nous quelques instants sur la maison, le salon. Puisque ce qui est une certitude, c'est que la PS3 et la Xbox 360 vont se mener une guerre à couteau tiré en 2011 encore. Elles vont pas changer. Toutes leurs cartes sont maintenant dévoilées. Hein. PS Move d'un côté, Kinect de l'autre. Elles sont là pour durer encore un petit peu. En revanche, en termes d'exclusivité sur 2011, hein, sur la visibilité qu'on a, il peut y avoir des surprises, hein, mais c'est vrai qu'on sent quand même très clairement qu'il y en a plus du côté de la PS3 que de la Xbox 360.
J'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas l'année de la PS3?
Je pense depuis 3 ans,
Thierry, c'est ça.
Tout va se jouer sur le Kinect. Est-ce que ça va fonctionner? Au final, les gameplays sans manette. Donc pour moi, la PS3, c'est gagné. Quoi. La Wii, ça a cartonné avec la Wiimote. Donc la PS3, avec ses beaux graphismes HD et son PlayStation Move, ça peut que toucher un large public, ouais, élargir son public.
Avec quel jeu?
Donc, il suffit juste de copier Nintendo. Hein.
Ouais, ils sont pas gênés jusque... Est-ce qu'ils savent bien le faire? Parce qu'on rappelle quand même que Sony a inventé tous les concepts que Nintendo a fait marcher avec la Wii. C'est-à-dire que
Light Toy,
ça existait. Comment ça s'appelle? Wii Fit.
Oui.
Bah, ça existait le truc d'aérobic, ça s'appelait
Kinetic
avec Nike. Tu vois, Titanic. Un super partenaire, machin. Mais alors, il y a personne qui a joué jamais. Ils avaient tout inventé.
Je me rappelle, ils jouaient à Kinetic.
Tout inventé, sauf qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Deux jours.
Je fais confiance quand même. Il y a des très talentueux développeurs sur PS3, donc des Naughty Dog et compagnie, des mecs qui déchirent bien. Je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose. Ensuite, pour le Kinect, c'est une autre histoire.
PS Move sur Uncharted, par exemple.
Oui, mais bon, je pense qu'ils développeront d'autres productions un peu consacrées. En 2011, peut-être pas. Je sais pas combien ils sont exactement chez Naughty Dog.
Uncharted
mais
sur PSP2, peut-être. Je dis ça.
C'est plutôt.
Donc j'ai plutôt confiance. En mon avis, la PS3 est bien partie. Disons qu'il y a moins de risques de ce côté-là. Alors que sur avec le Kinect, il y a vraiment tout à faire. Quoi. C'est un terrain en friche. Alors que là, pour le PS Move, c'est déjà défriché avec la Wiimote. Donc voilà.
Et je me demande s'il n'y a même pas... c'est pas finalement, la PS3 devient la Wii HD. Et que du coup, au niveau des développeurs, un portage d'un jeu prévu, commencé ou même existant déjà sur Wii, on le booste un peu visuellement, mais c'est la même chose.
Mais ça, c'est un avantage en termes de catalogue pour quelqu'un comme Sony, justement. Ouais, c'est un des avantages du Move.
Regarde,
alors que Kinect, tu peux pas adapter n'importe quel concept à Kinect.
C'est clairement le cas.
J'ai oublié la question.
Alors, la lutte entre la PS3 et la Xbox 360, qui va l'emporter en 2011? On rappelle qu'actuellement, la Xbox 360 est devant au niveau mondial la PS3, hein, toujours.
Grâce au marché américain, principalement.
Est-ce que ça va être ça la vraie question de 2011, quoi?
Ah non, c'est l'une des questions.
Enfin, tu vois, est-ce que c'est en termes de vente, est-ce qu'on voit Kinect versus Move? Est-ce qu'on voit le nombre de ventes de PS3 versus Xbox? Est-ce que ça va pas être l'année de la 3DS? Est-ce que c'est pas la Wii 2 qui va tout? Franchement, moi, 2011. Et pourtant, j'adore être Nostradamus. J'adore faire des voilà, quitte à mon propre la gueule après.
De ce corps.
Mais là, franchement, j'ai du mal à voir ce qui va se passer, quoi. Ou ouais, du mal à même à voir quels sont les enjeux. Moi, je le répète, moi, ce qui m'intéresse vraiment sur 2011, moi, c'est les enjeux de distribution, les nouveaux schémas de distribution et de voir. Moi, pour moi, le 2011. Allez, hop, Nostradamus, c'est parti. Pour moi, 2011, c'est l'année du online. Voilà. Ouais. Pour moi, l'année 2011, c'est l'année charnière, donc ça va pas décoller cette année, mais c'est l'année charnière où, putain, sur ton iPad, ou même, là j'ai un pote, Caféine, qui jouait.
Je reconnais un peu, ouais.
Voilà. qui jouait, il était sur son Mac, et il jouait à Assassin's Creed 2.
Ouais, moi aussi j'ai essayé là-dessus.
Voilà, c'est
pas encore fantastiquement génial,
ouais,
mais ça marche.
Globalement, ça marche. Et donc voilà, on est au tout début de l'année 2011. Donc c'est dire ce qui va se passer après. Et je pense que 2011, ça sera plus intéressant à ce niveau-là.
Attendez, juste pour que tout le monde comprenne bien, comment on joue Assassin's Creed 2 sur un Mac?
Bah t'as installé OnLive, tu balances OnLive, tu sélectionnes Assassin's Creed 2, tu joues.
OnLive, c'est le système de, en fait, tu n'as plus de machine chez toi. Tu n'as plus de Xbox, tu n'as plus de PS3, tu n'as plus de PC.
T'as un tuyau,
tu reçois
un écran.
Et un écran, il faut un écran. Que ce soit un iPad, un Mac, un PC, ce que tu veux, tu as un écran. Et en fait, tu commandes à distance la console ou l'ordinateur qui est chez OnLive. Et en fait, le gros avantage, potentiellement, parce qu'il faut voir comment ça va se passer, le gros avantage, c'est que tu peux jouer en permanence au dernier jeu PC, par exemple, sans avoir à
mettre à jour ta carte
graphique, machin, etc., etc.
Bon, t'as pas la qualité visuelle d'avoir cette
gamme,
machine pour l'instant.
Du plus haut de gamme, mais en tout cas, parce qu'on est à l'origine de la chose. Et je pense que moi, 2011, ça va être vraiment l'année hyper intéressante pour ça. Ton jeu, tu vas pouvoir le commencer sur iPad, le continuer
Ça, ça regroupe tous ces concepts-là dont on a parlé.
T'es où t'es chez toi, t'es chez un pote, tu continues ton jeu.
C'est juste un signal vidéo.
C'est assez mortel, ouais.
Justement, voilà, on joue à Assassin's Creed 2 sur Mac alors qu'il n'est jamais sorti sur Mac. Il sortira jamais sur Mac parce que ça ne sert à rien.
En fait, ce qui est marrant, c'est comment vont réagir.
Écolo.
Comment vont réagir. Alors, écolo, oui et non.
Il y a beaucoup de serveurs qui tournent. Mais il y a moins de plastique, il y a moins de bois.
Voilà, la question, c'est comment vont réagir Microsoft, Sony, comment vont réagir toutes ces personnes-là, tous ces lobbies.
Il n'y a que deux possibilités. Soit ils sont très protectionnistes, soit ils vont dans la même direction.
Ouais. Et ça se trouve, ça sera des boîtes, les futures consoles seront moins puissantes, et ça sera des boîtiers.
Mais moi, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, on l'a senti un petit peu aussi en 2010 avec quand même déjà énormément de jeux et tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on risque d'arriver à une offre tellement pléthorique en termes de support, de distribution, de jeux, etc., dès cette année en 2011 qui va nous obliger à. Déjà, on a du mal à finir les jeux et tout. Il va falloir. Il y aura pas. Peut-être que c'est trop tard pour réfléchir en dominant du marché, quoi. Il y aura juste tellement d'offres différentes avec leurs petites parts de marché qui seront séparées.
Et moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je vous plains. Moi, je suis plus journaliste. déjà, quand il y avait une nouvelle console qui sortait, c'était un peu la catastrophe pour pouvoir à chaque fois trouver les personnes pour tester, pour machin, etc. Là, avec la 3DS, avec.
C'est excitant aussi.
Mais en fait, d'un côté, on s'en fout des journalistes. Le truc, c'est en tant que joueur, ce qui est marrant, mais moi en 2010, c'était le cas. J'ai pas eu le temps de finir les jeux que j'avais envie de finir. Et 2011, ça va être pareil. Non, mais tant mieux d'un côté. Tant mieux d'un côté. C'est-à-dire que l'offre va plaire à beaucoup de gens. Mais on va vraiment arriver à ça.
Et du coup, elle va s'étouffer. Elle risque d'imploser, en fait. Plus personne ne pourra vraiment émerger. Ou alors, à de rares exceptions près, peut-être un ou deux trucs particuliers. Mais si les bases installées sont plus limitées, etc., il n'y aura plus les phénomènes peut-être
qu'on
verra.
C'est là où
OnLive se dégage.
OnLive se dégage.
Parce que tu peux regrouper toutes les expériences.
Donc, vous voyez en 2011 la mort de la boîte.
Non, c'est l'année charnière. Enfin, c'est le début.
L'année zéro. Là où ça commence à où tu peux plus ignorer le truc.
Parce que pour tout ce qui est flux, genre que ce soit jeux vidéo, etc., il y a un truc qui ressort, tout ce qui est VOD par exemple, que ce soit sur Xbox, PS3, la qualité est moindre que si tu avais un Blu-ray, donc si tu avais l'objet.
Ouais, mais ça n'a pas empêché le MP3 de s'imposer alors que la qualité est pourrave par rapport à un CD, ça n'a pas empêché des tas d'autres choses de s'imposer.
Mais la VOD, ça marche pas
très fort. Notre rapport à l'image n'est pas le même.
La VOD marche pas très fort.
Ça marche pas très fort, mais là j'ai vu sur Gamasutra, ce site de référence américain, que en fait c'était les données concernant l'utilisation vidéo des consoles, c'est-à-dire la VOD sur Xbox, du Blu-ray sur PS3 ou de la VOD sur PS3. Et c'était assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait, sur PS3 notamment, t'avais autant, je crois que c'était 40, 40 et 20 de mémoire, mais en gros, t'avais autant de temps passé à jouer offline qu'à voir des vidéos. Et après, t'avais un peu moins de temps qui était passé à jouer online. Donc le jeu au final était encore supérieur, mais tu te rends compte que c'est que des consoles. Et même la Wii. Donc notamment nous.
Regarde quoi comme vidéo sur la Wii?
Et ben nous on l'a pas en France parce que nous en France.
Oui, avec Netflix.
Voilà, ouais. Nous on est un peu vraiment totalement à la bourre, mais tous ces trucs-là comme Netflix, etc. Netflix, c'est du on-live de la vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Ouais.
Écoutez, ça va être intéressant, en tout cas ça va être passionnant, et c'est vrai aussi que c'est excitant parce que le regard de beaucoup de personnes aussi vont encore se tourner vers le jeu vidéo parce que c'est une industrie qui est en train de se réinventer encore aujourd'hui.
Pour nous, ça va être d'autant plus difficile de bien tout comprendre.
C'est certain. Et puis on le voit maintenant même avec Free qui lance sa nouvelle box avec un Blu-ray, des jeux HD,
une Wiimote,
c'est un peu de la merde.
Oui, mais avec un comment ça s'appelle, pas un App Store mais un Free Store ou je sais plus quoi, où on pourra télécharger des jeux.
Alors pour le coup, j'y crois vraiment pas alors voilà, encore Nostradamus, tu vois. J'y crois
c'est vrai, incroyable.
J'y crois vraiment pas au Free Store, voilà, en tout cas avec les jeux qu'on a vus et les jeux
pour
qui...
l'instant, oui.
Mais ce sera que des jeux comme ça qui vont arriver. Par contre, la Freebox V6, enfin la Révolution, je me répète, mais pour le live, c'est magique. Tu vois, c'est une sortie HD, tout est intégré, tu peux retrouver ça partout. On va vraiment aller vers ça. Et oui,
bon. Bon allez messieurs, pour conclure ce podcast des perspectives 2011, j'ai devant mes yeux une liste absolument incroyable, plus de 45 jeux. On a fait un petit calcul rapide hein, avec en moyenne 50€ le jeu. Bon, ça vous fait
ce qui est déjà pas cher,
ça vous fait déjà plus de 2000€ que vous pouvez mettre sur un compte, hein, faire fructifier, parce que ça va partir en jeu vidéo. Je vais vous donner exhaustivement cette liste et puis vous levez la main dès que vous avez envie de dire un petit truc dessus. On va essayer d'aller assez vite parce que sinon c'est juste pas possible.
Envie tout simplement.
Exactement. Alors, 15 janvier, Little Big Planet 2. Ça va être sympa vu les possibilités qui s'annoncent. 21 janvier, et vous allez comprendre en même temps à la lecture de cette liste à peu près le truc hallucinant de cette
c'est
année
bien réparti et tout.
Qui se présage. Hein. 21 janvier, Mass Effect 2 qui sort sur PS3. 27 janvier, Dead Space 2. Moi j'attends énormément. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire parce que le premier était quand même vraiment génial. J'espère juste qu'ils vont pas sombrer trop dans l'action un peu bourrin.
Moi voilà. Ça me dérangerait pas parce que j'ai toujours peur dans les jeux comme ça, donc j'aimerais bien enfin pouvoir en finir un, tu vois.
Ah mais qui dit bourrin ne veut pas dire néanmoins moins flippant. Hein.
Oui c'est vrai, t'as raison.
À suivre. Et puis l'arrivée d'un mode multijoueur aussi, alors que le premier n'en avait pas. 25 février, Kirby. Thierry.
Alors là c'est bien, c'est bon ça, on passe de Dead Space 2 à Kirby. Ouais. Rien à voir en termes d'univers, moi celui-là je l'attends grave. Donc au niveau de cette sensation de texture que tu as à l'écran, de tissu, etc. Le gameplay associé, la possibilité de passer sous le décor, c'est j'ai hâte de pouvoir y jouer. Les Américains ont vraiment... Oui, il est sorti aux US.
Moi j'avais joué... Non, franchement, voilà, rigolo. Vraiment, vraiment super intéressant. Ouais.
Et alors il y a quelque chose qui est notable, c'est qu'effectivement la fin d'année chez Nintendo a été au niveau des jeux plus avec un curseur sur la difficulté. Ouais. Des grands jeux, hein, vraiment, pour les passionnés, pour les hardcore gamers, mais une difficulté très élevée. Kirby en revanche c'est très facile.
Ah tu meurs pas, t'avances, ouais, voilà, mais bon c'est bien aussi hein, ça correspond à un public et...
pas besoin de mourir pour s'amuser. Non,
exactement. Donc 25 février sur la Wii, Kirby au fil de l'aventure, ça va être chouette. Le 23 février, Patapon 3 qui sort, voilà, alors peut-être quelques petites innovations, ce serait bien, mais une série qu'on aime bien ici à Gameblog. Le 20 février, Killzone 3, ça va être un gros morceau aussi de la PS3,
ouais, je l'attends par habitude, on va dire, parce que je m'imagine pas d'être particulièrement surpris, mais ça va être certainement extrêmement efficace. Ouais,
je pense que c'est comme God of War 3. Thierry. Voilà, c'est très efficace, genre ça va pas révolutionner le FPS, mais on va passer un bon moment, on va en prendre plein les yeux.
Et puis c'est un titre important de la part de Sony, puisque c'est un peu le jeu vitrine, hein, celui qui va être
3D,
PlayStation Move, 3D relief.
Alors ça va être intéressant parce que pour le moment, les quelques FPS que j'ai essayé en PS Move, je suis pas très convaincu. Ouais.
Est-ce que ça va être l'essor aussi? Est-ce qu'en fait il y aura une killer app enfin une killer app pour les téléreliefs quoi?
Ah oui.
Est-ce que 2011 ça va être aussi l'année des téléreliefs avec écran? Voilà, c'est aussi une question. Est-ce que les joueurs vont avoir envie d'investir dans les téléreliefs? Pour l'instant autour de moi, j'en connais pas vraiment.
Je crois que c'est trop tôt pour le coup. Moi je viens à peine, tu vois, j'ai fait un an que je me suis équipé d'une télé HD. J'ai pas envie de passer à la 3D tout de suite.
T'es un peu à la bourre, t'as pas.
Je suis un peu à la bourre, c'est vrai. Un peu rétro.
Mais ce sera forcément une transition forcée comme la HD finalement qui a fini sa transition parce qu'il y avait plus de télé HD.
Attention quand même,
c'est fin d'année prochaine, ça c'est fin 2011.
Je sais pas si la 3DS justement va pas tuer la télé. La 3D avec lunettes.
Moi je suis super d'accord.
Ah peut-être, mais si on te demande que les télé 3D avec lunettes, tu seras bien obligé d'avoir une télé 3D avec.
Tu peux attendre.
Oui, bien sûr. Non, mais tu peux attendre.
Je pense qu'il y a plein de gens qui risquent d'attendre en disant non, c'est pas. Moi j'ai pas envie d'être avec des lunettes derrière mon écran.
Pour moi, la 3DS valide le fait que, effectivement, bon, attends un peu, mec, dans 2 ans, les télés elles sont relief pareil mais sans lunettes. Il est urgent d'attendre, j'ai envie de dire.
Oui, mais moi j'ai déjà essayé une télé auto-stéréoscopique, donc grosso modo le même système que la 3DS, pas de lunettes et en 3D. Ça fonctionne, on n'y est pas encore parce que l'avantage de la 3DS, c'est que comme on la tient en main, tout le monde va la tenir à peu près à la bonne distance et pouvoir réorienter facilement l'écran pour bien percevoir la 3D. Ce qui n'est pas le cas de ces grands écrans-là.
Mais dans 5 ans.
Moi ce que j'avais vachement aimé, dans le seul truc à l'arrière qui pourrait me porter en fait à porter des lunettes en mettant une télé 3D. J'ai vu ça sur YouTube, c'était un truc technologique mais existe depuis un an ou deux. En fait, selon ta lunette que tu portes, tu n'es pas obligé de voir le même programme à l'écran.
Oui, ouais.
Et ça, c'est quand même mortel.
C'est génial.
T'as ta gonzesse qui mate son film avec ses écouteurs. Toi, t'es à
toi,
côté.
Tu regardes le foot, etc.
Voilà. Tu la tiens par la main.
La communication totale, quoi. C'est ça.
Sony a déposé un brevet là-dessus, ouais. Justement. Parce que
c'est la joie dans le couple aussi.
Ouais, c'est ça.
Le bonheur.
Non, mais parce que c'est ce qu'il faut souligner aussi. Hein. C'est que pour l'instant, il y a, sur les consoles HD, il n'y a que Sony qui fait de la 3D relief. La Xbox 360.
Enfin, qui en fait un étendard en tous les cas. Parce que Black Ops, par exemple, qui est sorti l'année dernière, est compatible 3D sur Xbox aussi. Ça marche très bien.
Oui, ouais, c'est-à-dire que, mais... ça, c'est-à-dire que les développeurs sur PC, avec, tu peux avoir le jeu en relief, et en fait c'est simple, ça utilise la 3D qui existe déjà. Il n'y a pas vraiment, les développeurs n'ont pas forcément un truc spécifique pour, en fait.
Et pour l'instant, effectivement, c'est essentiellement sur les jeux PS3. Que oui. Ils communiquent en tout cas.
Tout ouais. À fait.
Allez, on passe au mois de mars 2011. 11 mars, l'arrivée de Homefront.
Homefront, rigolo. Rigolo pour le scénariste, déjà, ouais, John Milius, voilà. Donc le réalisateur de Conan le Barbare, ouais. Le mec qui a scénarisé Apocalypse Now, Red Dawn. Donc que des films bien bourrins. C'est parti pour être ultra bourrin.
Apocalypse Now, c'est pas si bourrin que ça.
Non, pas du tout. le chevauché des Valkyries, genre les hélicoptères dans le ciel qui débarquent. C'est un gros bourrin, c'est un fou furieux qui a fait trembler Hollywood et qui du coup a pas pu bosser très longtemps. Et donc passe aux jeux vidéo. Et là, quand tu vois Homefront, le scénario, c'est la Corée qui envahit les États-Unis. C'est très attendu aux États-Unis. J'ai vu un petit peu sur les tops. Il apparaît toujours un petit peu quelque part. En France, je crois beaucoup moins quand même. Genre visuellement, ça a l'air un petit peu genre en deçà de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un FPS.
Ça
mais par
des
contre,
scènes, mais...
je pense que ça va faire polémique et ça va être rigolo. Mmh.
Oui, juste avant la fin du monde, hein, puisqu'on le sait, ça viendra de la Corée. Le 11 mars, Dragon Age 2.
Moi, j'attends aussi beaucoup.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont changé un petit peu l'esthétique, ils vont dynamiser un peu tout ça. Enfin, en tous les cas, BioWare n'est pas non plus trop du genre à se reposer sur ses lauriers. Donc, voilà.
Et ils vont avoir une année chargée du côté de BioWare.
Oui.
Allez, 15 mars, Shogun 2 Total War.
Alors, ça, c'est.
Ching.
Oui, non. Shogun, moi, c'était un choc fantastique quand je l'ai découvert. C'était quand Shogun ? C'était il y a plus de 10 ans.
C'était il y a 9 ans, je crois.
9 ans, ouais, le premier. Non, et puis ils ont inventé la série et c'était magique pour tous les fans de stratégie, ça mélangeait tout.
C'était un nouveau genre de
stratégie. C'était un nouveau genre, stratégie de temps réel, stratégie tour par tour. Bataille massive. Et là, le 2, c'est pas. Voilà, faire une suite 10 ans après, ils ont pris le temps, ils sont revenus et pour moi, c'était. On a vu médiéval, on a eu beaucoup de Total War différents et moi je trouvais ça hyper intéressant qu'ils reviennent enfin à cette période et donc j'attends grandement. À mon avis, ça va être un des jeux de l'année sur PC, c'est clair.
Bah ouais.
Ok. Alors messieurs, je vais juste vous dire qu'il en reste encore plus de 30, on continue. 18 mars, Okami Den, donc DS. DS. Hein,
c'est le retour de Amaterasu
en version chibi, voilà, tout petit. Ça va être très sympa, on l'espère. Mm-hmm. 25 mars, Crysis 2.
Ah.
Attendu aussi,
un
gros
étalon
du
FPS. Ouais.
Donc Crysis 2 effectivement on attend fort. Le 30 mars, Pokémon version noire et blanche qui a fait un raz-de-marée au Japon. Donc ça
risque
de
cartonner chez nous aussi, d'autant que c'est un fin le renouveau un petit peu quand même de la série.
Exactement. 31 mars, Brink. Ah ça, on l'attend depuis un bon bout de temps, Brink. Hein.
Ouais, ils prennent leur temps pour le développer.
Je confonds deux, moi, je confonds toujours.
Brink, c'est celui des mecs de Enemy de Quake Wars.
Ouais, et ça parle de quoi ? C'est les Yamakasi un peu.
Ouais, c'est un petit peu Mirror's Edge mélangé avec un FPS assez.
Et moi, j'attends épique. Celui de ceux qui ont fait Painkiller là.
Ah oui, People Can Fly.
Ouais, People Can Fly, et le nouveau qui a l'air super sympa, édité
c'est
par
Bulletstorm.
Epic.
Oui,
Bulletstorm.
C'est ça.
Bulletstorm, pour moi, tu vois, un truc qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je ne pensais pas qu'on va en parler, c'est Duke Nukem Forever.
Oui, mais bon.
Il est dans les pas de date.
Et ben voilà, mais en gros, moi, Bulletstorm, c'est mon vrai Duke que j'attends, en fait.
D'accord, clairement. Mais tu l'as pas vu, Duke, encore.
Ah si, j'y ai joué.
T'étais là.
Ouais, mec.
Bah écoute, c'est Duke, quoi.
Et ouais, mais oui, ben voilà, mais c'est vieux, quoi. Enfin, c'est.
Mais ça a le charme de la naphtaline.
Putain, les gars, on en reparle dans 5 minutes dans les pas datés. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, on continue très vite. 31 mars, NFS Shift 2, avec une vue cockpit encore plus folle et des sensations extrêmes.
Je crois que c'est Shift 2 tout court, non ?
Shift 2.
Ouais,
très bien. a priori probablement au mois de mars, mais alors là attention hein, c'est pas sûr mais c'est normalement The Legend of Zelda Skyward Sword. Thierry.
Bon, j'attends bien sûr, même si j'avoue que c'est la présentation à l'E3 m'avait laissé un petit peu sceptique, ça avait fait un peu peur.
T'avais pu y jouer
Ouais, j'avais joué un petit peu.
Il paraît que c'était mieux après sur le show.
Oui, mais non, mais ils ont eu des interférences et des machins, ça a pas marché.
Exactement, ça, ça a été horrible. C'est le grand moment où Miyamoto, genre, était senti tout seul, à moitié en panique. Mm-hmm. Et je pense qu'ils ont largement eu le temps de retravailler encore le gameplay. Et je suis vraiment curieux parce que le précédent, je l'avais pas apprécié tant que ça d'un point de vue purement design. Et là, visuellement.
Design visuel
Oui, caractère design. C'est genre les persos avaient des drôles de tête.
Il y a pas grand chose quand même à l'écran de ce qu'on a vu pour l'instant. C'est un peu tout vidéo ça.
C'est marrant parce que pour Julien, c'est justement l'inverse. C'est ce
ah oui, carrément. Ah, moi, j'ai pas accroché.
J'ai kiffé Twilight Princess.
Ah, ouais, moi, j'ai bloqué sur la version GameCube en fait, sur Wind Waker.
Mais Twilight Princess, c'est le fantasme d'Ocarina of Time avec des jolis graphismes. C'est vraiment ça.
Si joli que ça. Genre, quand le premier village, quand t'arrives dans le premier village avec la tête des habitants, t'es là, genre, il ressemble à rien du tout. Ensuite, t'as le design du loup qui est magnifique. T'as des.
Les scènes.
Le premier contact avec le jeu, il était rude.
Sur le toit et tout.
Le problème, c'est qu'il faut déjà y arriver, quoi. C'est que t'as les 20 minutes. Voilà, moi, j'en ai marre.
T'as été décroché sur les 20 premières minutes.
Sérieusement, ouais.
Jeu de pêche ?
J'ai failli.
Son deck, je sais plus quoi, il y avait une abeille aussi, un truc. Franchement, ça m'a saoulé, quoi. C'est dommage, hein.
Après c'est trucs, tellement bon quoi.
Mais ouais, mais voilà.
Il y a du Miyazaki vers la fin et tout. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un grand Zelda. Ah bah bon, on verra. Skyward Sword. À suivre. Mars toujours. Fear 3. Le retour d'Alma. oui, non. Oui, non, bon. En mars, l'arrivée de Final Fantasy XIV sur PS3 cette fois-ci.
Alors, qui sera peut-être fini.
C'est ça, qui sera peut-être bien aussi. On espère pour eux. Là déjà, on en est qu'au mois de mars, vous voyez qu'il y a quand même déjà une ribambelle de bons titres. Bah, c'est loin d'être fini, puisque le 22 avril sort Portal 2. Et ça, très attendu.
Ah ouais, mais trop. Mais alors, ils ont eu un nombre d'idées de mécaniques de jeu encore. On va se prendre la tête à mort. Ça a l'air extraordinaire. Il y a une ambiance de fou. Ça a l'air marrant.
On résume toujours un petit peu ce que c'est.
Alors, c'est un puzzle game, enfin un jeu de plateforme puzzle en vue à la première personne en 3D.
On crée des portails, on passe comme ça de zone en zone.
Voilà, le but étant de trouver simplement la sortie du niveau dans lequel t'es. Bon là, ils ont l'air d'avoir habillé encore plus scénaristiquement l'ensemble et tout, parce que GLaDOS plutôt revient, etc. Mais bon, enfin, pour moi, ça va être un des gros jeux de cette année, ne serait-ce qu'en termes d'humour.
Non, mais ce qui est super intéressant en voyant Portal 2, que j'attends aussi énormément. Alors attention, je sors. Voilà, je fais une confession, j'ai pas fini Portal 1.
Oh merde.
Voilà, tout le monde me regarde avec des grands yeux.
Et c'est vrai que ce podcast s'arrête maintenant et voilà. Pour Ragal.
Non, mais c'est vrai que je me suis arrêté à je sais plus quel niveau, 14 ou 13 ou 14.
Il faut aller jusqu'à la fin. Hein.
Mais évidemment, mais du coup, je crois que je vais le garder comme ça me différenciera de la masse. Non, ce que j'aime beaucoup, ce que je voulais dire par rapport à Portal 2, Portal 1, etc. Et tous les jeux aussi dans lesquels je mettrais aussi Limbo et aussi Super Meat Boy, etc. C'est cette résurgence du côté.
Simple.
Du côté simple et du côté puzzle dans la plateforme. Mmh. Et là, entre Portal, Limbo ou Super Meat Boy, on a des approches extrêmement différentes. Et celle de Portal est effectivement super attendue. Quoi.
Ça fait travailler les méninges très clairement.
Ouais.
Et les réflexes.
Avril toujours, Mortal Kombat avec un K, bien sûr.
Mais qui se présente pas mal.
Moi, je sais pas même pourquoi vous l'avez mis celui-là, parce que.
Parce qu'on adore le sang et les tripes.
Il y a God of War, je sais qu'il y a Kratos dedans normalement.
Ouais.
Mais Mortal Kombat, je trouve que c'est mort depuis des années.
Putain,
moi,
je trouve ça à chier, ouais. Franchement. Mais bon. C'est pour contenter tous les publics. Printemps, donc a priori vers avril, elle est noire, qui a l'air vraiment chouette.
C'est mon jeu le plus attendu de 2011. J'espère pas être déçu, parce qu'il y a quand même un risque.
Team Bondi, hein, les mecs de Getaway.
Team Bondi. Alors, en plus, j'avais testé Getaway à l'époque. Je te raconte pas. Je me suis arraché des cheveux et je m'en rappelle encore. C'était
pareil.
Horrible.
Oh,
quelle horreur ce jeu. Donc mais par contre, il y a une bonne promesse. Et voilà, là, je suis en train de jouer à.
Resituons toujours.
À Deadly Premonition, hein, dont on parlera en 2011 sur Gameblog, mais qui est sorti en 2010 et qui a l'air incroyablement culte. Et ça me fait penser un peu à ça. Donc c'est une enquête, quoi, tout simplement. Une enquête dans la peau d'un flic dans les années 50 aux États-Unis, donc à Los Angeles. L'univers a l'air génial, et puis au niveau gameplay, ça va vraiment être de l'enquête apparemment, mais là c'est Ran qui pourra vous en
c'est
dire plus.
C'est un peu
plus,
du Hellroy, voilà. Tu sens un peu du Hellroy dedans ou
Alors en tout cas, en termes d'image, oui, c'est-à-dire pour l'adaptation par exemple de Les Confidential, tu retrouves ce même type de personnage.
Ouais, complètement.
Et là, il y a une vidéo qui est parue fin 2010, où vous voyez un petit peu le travail sur la performance capture et on reconnaît les expressions du visage de certains acteurs.
Il y a quelques petits trucs au niveau des yeux où c'est pas encore ça, des regards.
quelques petits détails, mais c'est de très loin ce qui se fait de mieux en termes de captation, vraiment de performance d'acteur. Et d'autant plus que le casting du jeu, il déchire. C'est que des acteurs, enfin, il y a beaucoup d'acteurs de séries, de très grands acteurs de séries américaines et tout. Donc tu les reconnais, comme quand tu mates tes séries, quoi. C'est ces gueules qu'on connaît tous, ou des, on ne retient pas les noms, mais voilà.
Et a priori, tu vois, ils devraient utiliser ça dans le gameplay, c'est-à-dire pour l'enquête, tu pourras lire vraiment un visage d'un NPC et savoir
côté...
s'il ment ou pas. Et t'es là genre putain, s'ils exploitent ça correctement.
Mais c'est un petit côté surjoué un petit peu du coup, pour être sûr que tu puisses le voir, etc. Donc
ça me dérange pas, je trouve que ça fait un petit côté vieillot, tu sais, genre ces acteurs des années 50 qui ont rajouté un tout petit peu, mais juste ce qu'il fallait, tu vois, sur le Scarface original,
genre,
par exemple.
Quand t'es en plein interrogatoire, t'as un plan fixe sur le mec que tu interroges, et si tu ne fais rien, c'est-à-dire que t'as un choix à faire avant de poser ta prochaine question, t'as l'autre qui est en boucle de... Alors, ça se verra pas forcément, enfin ça se verra à la vidéo. Mais
à l'audio, je te confirme, ça va être dur de se voir. Mais Raon, un jeu d'acteur incroyable.
Voilà, non, mais enfin, il répète beaucoup ses expressions pour être sûr que tu lis bien, qu'en fait, là, il est mal à l'aise ou il cherche un truc.
Ah, il devrait t'obliger en ce cas, genre à déclencher, tu vois, automatiquement une réponse pour éviter ça. Ouais, c'est
chouette. On verra.
C'est à travailler.
On va y jouer dans pas très longtemps. Là.
Et puis ça a été repris par Rockstar, donc on espère qu'en ce moment ils sont dans ils ont une telle vista sur les jeux qu'on espère être séduit. Allez, un gros monument aussi qui n'a pas de date véritablement, il vient d'être reporté fin 2010 et il devrait arriver à partir de mars.
Il aurait dû arriver à ce moment-là.
Exactement,
en fait.
C'est Deus Ex Human Revolution.
Ouais, bah écoute, très bien qu'il le décale. Moi. Ça fait non mais c'est vrai. Ça fait 10 ans que le premier Deus Ex, ça fera 11 ans cette année que le premier Deus Ex est sorti. Qu'ils prennent le temps qu'il faut pour le polisher, puisque c'est fait pour ça. Moi, c'est clairement il est dans mon top 3 des plus attendus de cette année.
Ouais, et vous risquez d'en entendre parler sur gameblog.fr. On est en train d'essayer de vous préparer des belles choses pour vous faire vivre le développement de manière assez originale, hein, comme on aime bien le faire sur Gameblog. Au mois de mai, The Witcher 2.
J'attends beaucoup. Toi, t'es quelqu'un joué, non ?
Si, j'ai joué au 1. J'ai vu qu'il était déjà en préco depuis longtemps sur Steam, même.
Avec un bon bundle dématérialisé propre, avec plein de petits trucs, pas de DRM et tout.
Il y a des choses intéressantes. Mais Witcher, ce qui est marrant, c'est que c'est sorti de nulle part à l'époque. Donc là, il y a un peu de pression sur le 2, mais bon, ça devrait faire un truc de pas mal. Mm.
Je pense aussi, et c'est surtout un jeu de rôle. Ouais, pas mal.
Ouais.
Un jeu de rôle à l'occidental et à la PC, avec complètement pas linéaire, avec plein de possibilités. Enfin, et puis c'est surtout super beau, quoi. C'est vraiment super beau.
Et c'est, on vous le rappelle, le press kit de la Gamescom le plus incroyable ever. Allez dans le blog de Gameblog et vous verrez de quoi on parle. On continue au mois de mai. Red Faction Armageddon.
Ah, t'as sauté un jeu.
Oui, je sais. C'est vrai.
Il y avait Thor, le jeu vidéo qui t'a marqué.
Mais on ne sait pas pourquoi il est là en fait.
C'est une bonne de trace.
Ça fait peur quand même, parce que c'est, je crois que c'est Sega, donc à l'adaptation du titre. Ouais. Donc on pense aux Iron Man bien pourris qu'ils avaient sortis. Hein.
Et franchement, ça a l'air d'être aussi.
Voilà.
Au niveau,
tu comprends pas trop en fait. C'est parmi. Quand tu disais par exemple qu'en 2010 on avait vu le niveau des jeux vidéo augmenter, c'est vrai, il y a très très peu de merde, mais celle-ci en quelques-unes. T'avais Iron Man 2, je crois qu'il était sorti en 2010, t'avais Harry Potter aussi, donc t'avais des adaptations de jeux vidéo, de films en jeux vidéo qui étaient catastrophiques. Catastrophique.
C'est vrai, c'est vrai. Et alors, je sais pas.
Les exceptions qui confirment la règle.
À Noël, je sais pas si vous avez vu forcément la pub d'Harry Potter, le jeu vidéo. J'ai rarement vu une pub de jeu vidéo
qui faisait longtemps
aussi ringarde. Si tu vois le personnage en acteur et camarade comme ça, et là, c'est moche et pas beau. Je sais pas, tu prenais un extrait du film et tu disais le jeu vidéo à la fin, je sais pas, mais là, c'était naze. Enfin bon. Alors, on y revient, je le refais. Red Faction Armageddon. Très bien, je passe donc. Voilà. MotorStorm Apocalypse, ça, on est en juin.
Pas
mieux.
Moi, je suis pas.
Bon, moi, c'est de toute façon en jeu de caisse. Là, si on va super vite, ensuite il y a Forza 4.
C'est vraiment
attendu. Et il y a surtout Dirt 3.
Donc,
clairement, Dirt 3, MotorStorm.
Oui. Bah, MotorStorm, c'est comme Split Second avec des décors qui s'effondrent.
Ouais,
machin,
ça m'emballe pas des masses.
Bon, Dirt 3 par contre.
Dirt 3, c'est les deux premiers, c'était vraiment d'excellents jeux de rallye avec une sensation d'immersion dans les décors, genre quand tu traverses des paysages australiens comme ça, ou quand t'es au bord d'une corniche et que tu vas à toute vitesse et que tu sais la moindre erreur ne pardonne pas. T'es vraiment à fond et c'est super beau. C'est à la fois une démo technique, c'est un modèle de jouabilité, les interfaces sont ultra travaillées. C'est, les mecs de Codemasters font un super boulot à ce niveau-là.
C'est
le jeu de casse que j'attends l'année prochaine, en 2011.
Ouais, un jeu invraisemblable. Septembre, ça y est, on avance, mais bientôt on aura pas de date et vous verrez, il y a des gros jeux. Rage, Carmack, le retour.
Ouais, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde que ça excite, mais moi je l'attends vachement. Ce que j'ai vu, ça va être du bon FPS parce que id Software ils savent le faire et il y a un univers. Alors certes c'est du post-apocalyptique, certes c'est des mutants machin, mais je sais pas, il y a quand même un truc.
C'est plus sur la mécanique de véhicule qu'apparemment il y a quelques petits soucis ou
quelque. Oui, parce que c'est très arcade et très bizarre, mais.
Mais à voir.
Si c'est aussi arcade que du Halo Reach. Tu vois les véhicules dans la série des Halo, c'est très bien. Ça fonctionne super bien, quoi.
Ça me dérange pas plus que ça non plus. Mais il y a un vrai univers, il y a des quêtes, il y a un truc un peu plus persistant que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc une ambition supplémentaire et on pourra pas dire qu'ils auront pas pris le temps pour le faire.
Ah, c'est certain. Forza 4, tu l'évoquais, Thierry. Franchement, j'ai l'impression qu'il va gagner en popularité parce que Gran Turismo 5 est passé par là en fin d'année dernière.
Ils ont un coup à jouer, comme on dit.
Ils ont un coup à jouer, effectivement, Julo.
Bah, Forza, c'est quand même un très très bon jeu de caisse à la base. Là, il se prend peut-être et encore. Franchement,
le retour de flamme de GT5 qui a un peu déçu quand même certaines personnes en tout cas.
Bah, GT5 a déçu, ouais. Enfin, tout le monde aime taper sur GT5. C'est un peu à la mode, c'est un peu même facile parfois, mais c'est vrai qu'il est plein de défauts et puis le fait qu'il fasse des mises à jour en permanence. D'ailleurs, il y en aura plein en 2011.
Mais il n'est pas fini le jeu.
Il n'est pas fini. Forza a un bon coup à jouer parce que au niveau modèle physique, pilotage, etc., ils étaient déjà très 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 bons. Au niveau réalisation aussi, maintenant il fait un petit peu plus daté après Gran Turismo qui est quand même hyper photoréaliste, etc. Mais bon, ils vont, à mon avis, ils vont sortir le grand jeu. Mm. Il va y avoir une compatibilité Kinect. Alors ça, je vous le dis, mais je m'en branle complètement. on pourra tourner autour des voitures en faisant comme ça et tout ça, tu vois.
Rappelez-vous la démonstration à l'E3 qui était ridicule avec le mec qui s'approchait comme ça. Ouais. Oh, je regarde mon truc. Oh.
Et tu pourras évidemment conduire aussi sans manette,
sans permis.
Volant,
donc moi je pourrais conduire. C'est formidable.
Non, ça va être à mon avis une bonne cuvée. Et puis là, ils doivent déjà se frotter les mains à l'idée de voir tous les journalistes et autres joueurs. Oui. Balancer des vidéos comparatives, ce genre de choses.
C'est sûr. Ça sera une fin d'année à ce moment-là assez forte hein, du côté de la Xbox 360 avec l'arrivée aussi de Gears of War 3. J'avais pas du tout aimé le premier, enfin pas du tout, je m'en foutais, je trouvais bourrin et ça. Le 2 m'avait énormément plu.
Grâce au dialogue.
Bah ouais, non mais je sais pas, une ambiance assumée de
tout
match.
Je vais lui péter les veines du
cul. Du cul, hein, il le dit.
À la vieille conne, je sais pas quoi, non, c'est la reine des.
Ouais, la reine mère des je sais pas quoi. Enfin, avec des séquences incroyables où on est à l'intérieur d'un espèce de monstre, on doit lui couper chacun des boyaux avec le sang qui monte au fur et à mesure du niveau.
La série a réinventé le cover system en le dynamisant à mort. Ensuite, Vanquish est passé par là. Donc le TPS, on l'imagine plus maintenant à la même vitesse. Et donc je me demande comment ils vont gérer en fait ça. Et
tu penses que Vanquish,
change la perception.
Ceux qui ont joué à Vanquish, ça fera bizarre de retourner à God of War 3 s'il est lent dans son système. Un Gears of War 3 s'il est lent dans son système de couverture.
Donc il faut qu'ils apportent encore quelque chose. Ils avaient vraiment révolutionné le cover system.
Maintenant,
autre chose, il faut qu'ils fassent autre chose.
Il y a une compatibilité Kinect
qui est pas sûr encore. C'est pas sûr, mais c'est possible.
Je sais pas.
Il y a du co-op à 4, si je dis pas de bêtises.
Ça c'est bien. Ça c'est cool.
C'est bien. Un nouveau personnage et des monstres gigantesques. Ouais. Voilà.
En tout cas, ce sera clairement un gros blockbuster de Xbox 360. Est-ce que ça en sera de même pour Resistance 3? Alors là, de l'autre côté, hein, sur la PS3. Oh bah ça vous emballe à mort.
C'est pas une série qui me parle plus que ça. Oui, moi je préfère les Killzone en FPS sur exclu.
Mais ils sont quand même très très bien réglés et très bien fait.
Mais je trouve que de ce qu'on en a vu en tous les cas, ce Resistance là a l'air d'avoir un peu plus de personnalité que les précédents. Au niveau du traitement visuel, au niveau des personnages, etc. Donc je pense qu'on pourrait vraiment être très très agréablement surpris. Il faut quand même être objectif, les deux premiers n'étaient pas des mauvais jeux du tout.
Non, c'était même des très bons jeux, mais techniquement ils impressionnaient pas. Donc ils n'ont pas fait beaucoup parler d'eux parce qu'au niveau gameplay, etc., ils étaient extrêmement bien réglés.
Il y avait le
premier,
il
était au lancement de la PS3, c'est sûr qu'il avait un peu plus d'impact. Mais là, au dire des développeurs, le jeu est déjà fini, jouable du début jusqu'à la fin. Ouais. Et tout le temps entre maintenant et septembre, c'est que du polish. Donc il va probablement être beaucoup plus beau que les autres, surtout que les kits de développement ont vachement progressé sur PS3. Et il y aura toujours tout ce qui fait la force, un mode coop avec écran splitté. Ça n'existe plus, ça. Bah, eux, ils le font. Et modes en ligne.
Ça a existé dans Killzone 3, apparemment.
Ouais.
On a vu des images.
Ça, c'est cool.
Bon, enfin, bref, je pense que pour les fans de FPS, ça va être très très bien.
Écoutez, à suivre. Et puis, alors, le 1er novembre, un jeu que ici, nous, on attend avec ferveur, Uncharted 3 là, qui fin d'année 2010, ça a été le feu d'artifice.
Mon autre jeu le plus attendu de l'année. Ouais. Faut savoir que j'ai fait Uncharted 1 et 2 cette année. Enfin, l'année dernière. Mais
toi,
en 2010.
2010, pour toi, ça a été l'année de toutes les découvertes. Hein. Ouais. Uncharted, Assassin's Creed, tu t'es remis à jour, c'est nickel.
Je suis pas encore totalement à jour, mais.
BioShock.
Par exemple, il faut que je joue à BioShock 1.
Parce que l'avantage, c'est que t'en as qu'un à faire.
Ouais, je ferai pas le 2.
Ce qui m'avait impressionné avec le 2, c'était cette surenchère. Avec, t'avais l'impression d'avoir toutes les séquences clés d'un jeu vidéo, de la séquence sur le train, sur les toits, l'hélicoptère, genre t'avais tout dans le jeu, t'avais tout. Du coup, ils vont faire quoi avec le 3?
Mais ils vont être obligés. En plus,
je pense qu'ils vont être obligés de revenir à quelque chose de plus épuré, et c'est ça qui m'intéresse. C'est quand
peut-être,
tu vois,
mais en tous
désert,
les cas, si on
etc.,
s'en fie au premier truc qu'on a vu en termes d'action avec la baraque enflammée du château en France. C'est pas exactement.
Et moi, il y a un truc avec Uncharted aussi, c'est que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement un jeu qui a réussi toutes ses scènes, qui est très beau, etc. C'est un univers auquel j'adhère complètement. J'adore Drake. Et je suis super content de le retrouver un peu comme une suite de films que je serais content de voir arriver. Tu vois,
c'est le nouveau Indiana Jones pour moi.
Ouais, c'est un Indiana Jones.
Il a changé de look en fait. Dans le 3, il ressemble un peu plus à cet acteur qui joue dans 300.
Lequel
Léonidas ?
Leonidas,
Butler,
voilà, Gérard Butler,
moins balèze,
moins balèze, quoi.
Le même visage carré,
mâchoire un petit peu,
je sais pas,
il est un peu plus dark peut-être,
mais ça dépend des screens en fait, c'est très bizarre.
Ouais, mais sur certains, il a l'air d'avoir pris un peu un coup de vieux quand même.
Ouais.
Tu vois, genre, il commence à.
Mais là, il est très fatigué, quoi. Il est dans le désert.
Il s'en est pris plein la gueule dans le 2.
Il attend.
Ouais, c'est vrai.
Et n'oublions pas, hein, puisque les gars de Naughty Dog, Christophe Balestra en tête, l'ont vraiment souligné, ça a l'air d'être très important pour eux, c'est le multijoueur. Ils veulent en faire un multi à la hauteur des plus grands, des Call of Duty et compagnie, même si c'est dans des registres différents. Ils veulent que le multi, cette fois-ci, d'Uncharted 3, claque sa maman.
J'aimerais un petit coop sur celui-là aussi, je sais pas.
Il y a du coop, c'est sûr.
Parfait.
C'est sûr, parce qu'en plus, il y aura du Sully. L'ami
le moustache
de Nathan, et a priori il y aura du cop, donc vraiment à suivre de très près d'ailleurs.
Non, mais sur le même écran je veux, hein. Pas uniquement online.
Ouais,
ok, parfait.
A priori je suis pas développeur, hein, mais t'as vu dans la démo, on le voit en tout cas dans ce qu'on a pu découvrir dans la maison, ce lit est toujours à côté.
C'est
ils doivent pousser des trucs ensemble, etc.
Enfin, il y avait déjà ça dans le 2 aussi, hein, les trucs avec les personnages.
Mais coop, ils l'ont annoncé, il y en aura, c'est sûr. Allez, 11 novembre, toujours en novembre, Elder Scrolls 5
Skyrim. Ouais. Tu joues toi à ça?
Moi je préfère les. J'ai adoré en fait Fallout New Vegas en 2010. Et je préfère. Moi j'en ai ma claque. J'ai joué sur. Enfin, je suis joueur PC historiquement.
Les Elder Scrolls?
De tous les jeux PC. Donc...
T'en as ta claque des jeux PC?
Non, en fait.
Oh, le coming out!
Non, j'en ai ma claque. Moi j'en ai ma claque des jeux de rôle Heroic Fantasy. Ça commence à me saouler. Donc Elder Scrolls, le 5, ça me. Voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dit l'autre. Écoutez, par contre, ce qui serait intéressant, c'est quel moteur ils vont utiliser. Est-ce qu'ils vont utiliser le moteur de Rage, par exemple?
Non.
Voilà,
non, ce sera un nouveau moteur maison.
Moi, je l'attends plus pour voir ce que le prochain Fallout pourrait être avec un moteur. Parce que Fallout New Vegas, c'était le moteur moi qui m'a.
Mais surtout quand tu vois Rage, quoi.
Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un Fallout avec le moteur de Rage. Donc, Elder Scrolls 5, j'imagine, qui va être suffisamment bon. Quand on parle tous les deux, ils écoutent plus.
On est en train de mimer
c'est du jeu PC, tout ça.
C'est du jeu PC, c'est pour ça.
Non, pas du tout.
Du jeu adulte, c'est ça.
La rigidité du moteur de touche.
Avec plein de
touches.
Mais c'est
vachement mieux que moi.
C'est vrai qu'il.
Attention, il faut la vidéo.
Le NPC d'Oblivion.
Salut l'étranger. Tu m'as volé des fourchettes.
C'est ça.
C'est un peu ça, ouais.
Mais c'est surtout l'animation, quoi. Il faut vraiment qu'ils achètent un nouveau moteur d'animation.
Clairement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est attendu par une grosse communauté de joueurs et on les comprend.
Ça peut être vraiment, vraiment mortel. Hein. Ils ont des idées en général.
Et là maintenant, tout de suite, dans le podcast 167 de Gameblog, pour le conclure en beauté, un feu d'artifice, on va pas revenir extraordinairement dessus, mais ce sont les jeux qui vont sortir, oui, en 2011 ou pas, parce qu'il y aura peut-être des reports, on ne sait pas trop pour l'instant. Mais ce sont des très gros jeux. Infamous 2.
Ouais, moi j'attends à mort.
BioShock Infinite.
J'attends à
mort. Ça, ouais, carrément.
C'est pas pour 2011, ça.
Je pense que si.
Ah, moi j'ai peur que non.
Non, c'est bon, il sortira en 2011.
En tout cas, ça va déchirer si on en croit ce qu'on a pu découvrir. Journée. Ah,
mais
ça,
oui,
c'est fort, ça,
bien
le
sûr,
nouveau.
le nouveau jeu de Nova Chain, Make the Flower.
Exactement.
Ça a l'air super bien et ça il y aura du coop.
Alors moi, je suis curieux de voir. Hein, je suis curieux, mais j'ai peur d'être déçu, quoi.
T'as vu les premières images?
Ouais, j'ai vu.
Ah, ça a l'air chouette.
Ouais, non, mais visuellement, en tout cas, c'est
mais
original.
Mais l'idée derrière, le coop, sans se parler, juste en regardant, en pointant des choses.
C'est intéressant à voir, mais ouais, j'ai hâte de le voir, mais j'ai peur d'être déçu.
Voilà. Donc, en tout cas, une petite bulle de fraîcheur en plus à venir. Diablo 3.
Oh, ça, c'est pas 2011, c'est clair et net.
Ah ouais,
et c'est sûr et certain, c'est pas 2011. Quoi.
Tu crois?
Ils sont obligés quand même.
Non, non, mais bizarre.
Non, ils sont pas obligés. Ils sont obligés de rien.
Obligés de rien.
Mais c'est oui.
Bon. À chaque fois, tu vois. Attends.
Faut qu'ils sortent là, on va y jouer.
Attention sur les tablettes d'un côté, Thierry. Qui dit Diablo 3 en 2011?
Moi, j'annonce tous les jeux que j'attends, ils sortiront en 2011. BioShock,
ils sortiront tous en janvier, rien pour moi.
Il sort, et alors que Ragnar.
Non, non, mais j'ai envie qu'il sorte Diablo 3, clairement. Moi, tu vois, Diablo 3, il me prouve un truc, c'est qu'on peut encore faire des jeux intéressants, pas en 3D. Et moi, idéalement, j'aurais, même si j'ai beaucoup aimé Fallout New Vegas, j'aurais aimé un Fallout avec ce moteur-là.
Oui, mais grave.
Pas forcément avec la 3D, voilà, comme actuellement, mais en 3D vue dessus, isométrique.
T'avais joué à Lara Croft?
Oui,
sur le XBLA, le PSN, ouais, voilà, ça marche très très bien.
Très bien, vu comme ça, c'est
un bon retour de tous ces jeux, époque Black Isle et tout.
Mais ouais.
Donc tu passes du temps à faire de l'écriture plutôt que des putains de voix, etc., qui prennent tout ce temps sur le développement, ouais, c'est sûr.
Ouais, d'accord.
Allez, un nouveau jeu incroyable, Batman Arkham City.
Ça très attendu, ouais.
Il pourrait être pas mal. Le premier était chambé.
Le premier était très très bien. Et celui-là, c'est
une vraie surprise.
Ouais. Je crois
j'ai pas dit le mot chambé depuis 10 ans dans ma vie. Je l'ai dit au moins 3 fois dans le podcast. Je ne sais pas ce qui se passe.
Bah, tu te rattrapes.
Dirt 3, donc on en a parlé. Effectivement, référence de la simulation, on l'espère en tout cas, mais les précédents étaient extraordinaires. Dota 2.
Oui, chez Valve, en l'occurrence, donc il reprend le truc, c'est le MOBA. Quoi.
Tu connais pas Dota?
On en parle très souvent, mais j'en arrive pas à retenir ce que sont ces initiales. C'est quoi?
Defense of the Ancients.
Très bien.
C'est un nouveau genre de jeu. Hein. C'est un nouveau genre de jeu. Ça mélange la stratégie, la stratégie, l'action et non. Et on peut imaginer. Ce qui est intéressant là, c'est plus sur les outils communautaires, etc. Sur Valve, ils vont essayer un truc. Ça peut être assez intéressant. Hein. Tout à fait.
Duke Nukem Forever. Bah oui. 14 ans d'attente qui prendront fin en 2011. Ouais. Vous êtes sûr?
Ah oui, c'est sûr.
Ça sortira. Mais
ça va être bien.
Bof.
Le développeur me fait un peu peur. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas prouvé grand chose. Ouais.
Oh, ça va.
C'était les FPS qu'ils avaient sortis avant. C'était la série des.
Band of Brothers. Merde.
Brother in Arms.
Et puis ils ont fait aussi.
Pour emballer plus que ça.
Le RPG FPS post-apocalyptique online avec leur cel shading.
Borderlands.
Voilà, Borderlands.
Borderlands est bien. Moi ça peut être bien.
Le problème de Duke Nukem, enfin moi j'ai joué quoi, j'ai joué aux deux premiers niveaux.
C'est ça, t'es allé aux toilettes, t'as pissé, t'as fait
It's so long.
Voilà. Mais en fait non,
c'est la fin du premier niveau. Moi j'ai trouvé ça extrême. En fait,
c'est rétro à mort.
Ça va plaire qu'à ceux qui ont joué au premier et qui ont aimé.
Et t'avais pas aimé toi?
Et si, moi j'ai adoré. Mais le truc, c'est que par nostalgie pure, parce que tu vas retrouver le mec un peu misogyne, un peu violent.
Ouais, mais ça
un
c'est
peu
le personnage,
etc.
Mais même en termes de gameplay,
putain, en termes de gameplay, moi je trouve ça mais vieux.
Ah oui, c'est vieux, mais moi j'aime bien.
Non, mais
ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gameplay où tu fais juste du circle strafe comme un con autour d'un gros boss.
Enfin, moi je pense que
Borderlands.
Non, pas Borderlands, pas Brink, mais l'autre là. Bulletstorm.
Bulletstorm,
celui-là, pour moi, c'est le vrai successeur de Duke Nukem.
Mais c'est pas le même trip quand même. Hein.
Putain, pour moi, c'est du FPS couillu, péchu, qui
délire.
Et qui en envoie quoi. Et moi, j'étais un peu déçu. Enfin, j'étais content et un peu déçu de quand j'ai joué à.
Non, mais c'est sûr que ludiquement, ça va pas péter trois pattes à un canard, c'est clair et net. Mais néanmoins, je pense que ça va être un peu le trip charentaise. On va se remettre et retrouver des vannes de Duke irrévérencieuses au possible, misogynes.
À 300 ou 3 millions.
Et moi, j'attends un FPS en puisse.
C'est pas ultra laid non plus.
Ouais, moi, j'attends un FPS avec une campagne solo où on puisse explorer un petit peu les niveaux, trouver des passages secrets, s'amuser, etc. Et pas être tiré par le bout du nez, genre sur
Rage
pour Call of Duty, etc.
Rage, Stalker,
Rage également. Rage, ouais. Et donc j'attends un peu ça, quoi, le retour d'un vrai level design et pas uniquement basé sur du script. Et pour Bulletstorm, moi j'ai peur que ce soit répétitif. Donc cette mécanique de kick.
J'ai pas envie de l'enterrer avant, le pauvre Duke, parce que Dieu sait que je l'aime et que c'est mes premiers émois d'homme. Voilà, non, c'était quand même excellent à l'époque. Mais le level design de Nukem, il est médiocre hein,
de ce que de Duke Nukem le premier
Forever.
Non le dernier
Forever.
Ah d'accord,
ah oui c'est pour ce qu'on a vu pour le moment.
Qu'on a vu pour le moment, il est médiocre, oui. Médiocre.
Eh bien, nous verrons en 2011. Mais là, un autre jeu, El Shaddai Judo.
T'entends de micro. Non, bah, fait El Shaddai, oui, ça fait partie des jeux qu'on attend à Gameblog d'une manière générale, je crois. Moi en particulier, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Parce que c'est visuellement très réussi, je trouve en tout cas. Et pour le reste, bah, on le découvrira, on espère, avec des phases de gameplay un peu plus complexes que celles qu'on a pu voir au TGS. Mais surtout, moi, j'aime bien aussi le côté biblique, etc. L'ambiance, les musiques de cathédrale. Non, mais c'est vrai, c'est. Je sais pas, il y a un mélange intéressant. Moi, j'aime bien les trucs un peu ovnis comme ça.
Ouais, donc, en tout cas, il y a quelque chose qui nous attire bien plus qu'un site qu'une personne parmi nous ici a créé. Mais bon.
C'est une blague.
Exactement. Guild Wars.
Je l'ai plus, les suites de jeux vidéo.
D'accord.
À part Gameblog.
À part Gameblog,
bien sûr. Forcément.
Évidemment, quelle question.
Guild Wars 2. Ah, ça y est, on s'arrête sur tous les jeux maintenant ou pas?
Mais non, mais alors,
celui-là,
voilà.
Alors celui-là.
Ouais.
Attention, c'est un jeu PC. Attends, voilà. On va parler à deux. Non, celui-là est vraiment impressionnant. Autant le premier, pourquoi je vibre? Autant le premier.
Moi, j'ai trouvé ça raté le premier.
Le premier, j'ai pas accroché. Autant le 2. Alors, on dit toujours, c'est le WoW killer potentiel, ce jeu-là.
C'est vrai qu'on dit ça à chaque gros MMO carré.
J'espère que voilà. Pourtant, moi, je joue encore à WoW. Mais celui-là est vraiment impressionnant avec des boss énormes. Et il n'y a pas d'abonnement mensuel aussi. Faut voir ça. Il y a un côté.
Et cette fois, c'est un vrai MMO persistant, ce qui n'est pas forcément le cas de Guild Wars 1.
Ouais, et c'est hallucinant. En tout cas, ce qu'on a vu, les présentations qu'on a vues sont hallucinantes.
Ouais, et il y a plein d'idées de manière. De faire de la narration dans du MMO, c'est un premier pas. Alors c'est pas encore machin, mais il n'y a pas vraiment de quête, c'est plutôt des événements qui se passent sur lesquels tu peux arriver un peu n'importe où, n'importe comment, et te mettre à participer à la quête d'un autre mec au hasard, même si t'es pas avec lui. Il y a plein de petites idées. Tu commences avec, quand tu crées ton personnage, il a un journal où tu écris, bah, il est né de tel parent, etc., et tu choisis l'option avec un vrai background sur ton personnage. Il y a vraiment plein d'idées intéressantes qui seront peut-être des premiers pas vers ce qu'on espère depuis tant de temps.
Pas du Julien, mais
non du tout, je vous écoute avec
Mais c'est vrai que c'est un jeu, en tout cas pour ceux qui attendent quelque chose d'un peu d'innovant dans
qui colle un coup de pied au cul des MMO, quoi.
Et ça, il change pas mal, ouais.
Donc, série va changer un petit peu, c'est celle de Metal Gear avec Metal Gear Solid Rising.
Alors Julien,
c'est Raiden qui prend cette fois.
Est-ce que tu l'attends vraiment?
Pas trop pour l'instant.
De ce que t'en as vu.
Je t'avouerai que je ne l'attends pas véritablement pour l'instant, mais peut-être qu'une belle surprise se présage à l'orée du bois. Il s'agira donc d'un jeu d'action, on pourra couper, trancher, etc. dans tous les sens. J'attends de voir un petit peu ce que ça va être. Est-ce que c'est plus qu'un simple Devil May Cry-like, etc. En tout cas, ça change un petit peu et ça apportera
c'est
un petit peu de
choses. Pour ouvrir la série Metal Gear à un nouveau public. Aussi. Et je vous invite à lire l'interview du producteur, dont je ne me rappelle plus le nom, malheureusement, je suis désolé, sur Gameblog, où il explique un peu comment ça va se dérouler dans le jeu. Et voilà, pour les vrai fan hardcore de Metal Gear, ça risque d'être un petit peu décevant, je pense, pour le grand public, pourquoi pas.
En tout cas, j'attends un petit peu plus Ni no Kuni, alors qui est sorti au Japon là sur DS, qui va sortir sur PS3 en 2011. On espère que la version DS et la version PS3 arriveront chez nous en France traduite, c'est pas gagné, enfin on espère. On vous en avait pas mal parlé dans le podcast de fin d'année l'année dernière. Donc un RPG level 5 ultra mignon, coloré.
Sur PS3, c'est juste incroyable.
Ah bah c'est Studio Ghibli qui est derrière, ouais. avec Level 5, et franchement ça a l'air vraiment très chouette. Autre RPG à suivre, il va sortir là dans quelques jours au Japon, fin janvier, c'est le nouveau RPG de monsieur Hironobu Sakaguchi, le père des Final Fantasy, The Last Story, qui sort,
qui va nous réconcilier avec le RPG japonais, peut-être,
j'espère vraiment,
enfin, le RPG japonais traditionnel,
en tout cas ça a l'air vachement classe et le gameplay a l'air assez intéressant. Et pour un jeu, oui, c'est très très beau effectivement. Et puis après il y aura plein d'autres titres, hein, comme Star Wars The Old Republic, mais aussi Professor Layton versus Ace Attorney, un clash incroyable intersidéral qu'on découvrira.
Moi, j'ajouterais
sur 3DS
juste Deux Blob 2, oui. Parce que j'avais bien kiffé le premier Deux Blob
aussi, ouais.
Qui était très 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 sympa sur Wii. Là, ouais. Il va sortir sur toutes les plateformes, il me semble, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Voilà.
C'était bien foutu en termes de gameplay. C'était carrément un peu subversif. C'était très joli. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi.
Et un autre jeu, Thierry, aussi que tu attends, c'est Body Count.
Donc ça, c'est chez Codemasters, très action, et je pense que ça va être ultra beau.
FPS.
Donc, voilà.
Il y a quelques jeux indés aussi qui sont attendus.
Fez.
Ah, salaud, il m'a volé mon Fez. Ah.
Entre autres, ouais.
Je lis ce que tu as écrit.
Oui, expliquez un petit peu parce que vous êtes gentil. Ouais, Fez. Et les gens ne savent pas ce que c'est.
Fez, c'est un jeu de plateforme qui reprend grosso modo le concept de Paper Mario, où tu peux faire tourner le décor sur lui-même.
Très
c'est très pixel art, très amour du pixel et de cette époque-là. Et c'est à l'air, surtout comme beaucoup de jeux indés, très intelligent.
Et ça sortira sur PC et sur Xbox Live Arcade aussi, décidément, qui est l'une des plateformes qui récupère vraiment les belles petites
sur
productions.
Sur WiiWare, on aura le dernier volet de la série des Beat Trip, Beat Trip Flux. Donc c'est le sixième et dernier volet, on sait pas pour l'instant, et donc je suis assez curieux de voir ce que va devenir le commandeur vidéo.
Mais je conseille à tout le monde en fait d'aller sur de taper dans Google IGF 2010, c'est l'Independent Games Festival, et généralement on voit ceux qui vont arriver l'an prochain ou dans les années à venir, et c'est là où on a vu tous les jeux hyper intéressants.
Braid, puis, et d'ailleurs en parlant de Braid, il y a le prochain jeu peut-être du créateur de Braid,
Jonathan Blow,
qui pourrait arriver aussi cette année. Dans un genre complètement différent, puisque ça ressemble à une sorte de Myst. Enfin, c'est bizarre.
Voilà. On sait qu'il fait quand même d'habitude du beau job, Monsieur Blo. Allez, merci beaucoup, messieurs, pour avoir participé à ce podcast incroyable. Exactement, t'as vu c'est joli. Podcast 167, les perspectives 2011, ça s'annonce bien quand même cette année 2011. On avait dit en fin d'année dernière que 2010 avait été un beau cru.
Tu vois ce qu'on vient de se taper comme tunnel de titres de jeu, alors que c'est vrai, il y en a encore plein qui
vont débarquer. Est génial, c'est que comme en 2010, ça va être étalé sur toute l'année, et ça c'est génial. Ouais.
Et il y aura les surprises, parce qu'il y a bien sûr des cartes qui n'ont pas encore été dévoilées. Thierry, merci beaucoup, on te retrouve sur No Life. Ça y est, c'est reparti, c'est la rentrée de No Life.
Le début d'année, ça va être des critiques dans 100%, des news dans tous les sens. On a également Extra Life, donc il va revenir de manière régulière, qui est une émission de débat. Mm-hmm. On a plein de reportages de prévus. Enfin, comme d'habitude, une grosse année.
Eh bien écoute, vous savez, on est juste au-dessus de vous, donc on vous envoie plein de bonnes ondes à No Life. De ton côté, Ragal, Sens Critique.
Sens Critique, si vous y êtes pas déjà, venez nous rejoindre. Il y a certains membres d'ailleurs de Gameblog qui sont dessus. Moi, vous pouvez me retrouver sur senscritique.com/clément, pour voir mon activité culturelle. Voilà. Mais on vous enjoint.
Qu'est-ce que tu fais en anglais cuisine?
Non, pas ça. C'est un onglet juste perso. Voilà. L'onglet caché au bas gauche-droite et hop, tu as accès. Donc, non, nous, ça se passe bien. Puis on espère que 2011, c'est notre première vraiment année, puisqu'on s'est lancé le 1er décembre. Donc, on espère qu'on va continuer à croître de cette façon, en croisant les doigts.
On croise les doigts pour vous. C'est un super beau projet auquel, clairement, on adhère tous ici à Gameblog. Merci, Ragal. Merci, Thierry. Merci Raon. Merci, Julo. Merci, Poufi. Merci à vous, derrière la caméra ou avec les écouteurs dans les oreilles. Ça y est, c'est reparti. Une nouvelle saison. Enfin, c'est pas une saison, mais enfin, une nouvelle année de podcast, en tout cas, Gameblog.fr. Vous pouvez tout commenter dans les forums, nous dire qu'est-ce que vous attendez en 2011, et on se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine, pour un nouveau podcast. À très bientôt. Jouez bien et portez-vous bien. Ciao. Salut. Et encore bonne année.